Épisode 42 du podcast Louis Allo, deuxième épisode de la troisième saison. Cette semaine, on parle de lutte
québécoise, encore une fois,
avec mon invité de la semaine, un lutteur que je connaissais un peu moins avant de faire l'entrevue avec lui. Il s'agit de Charles Dumoulin, alias Chase Ironside, qui est un lutteur québécois, en fait, du début des années 2000, fin des années 90, début 2000. Comme je dis, c'est un lutteur que je connaissais pas, que j'avais entendu parler justement par mon bon ami Jean-François Kelly, qui était présent pour l'enregistrement de l'épisode, là, qui était avec moi un peu à titre d'expert. Pour une fois, c'était Kelly qui était l'expert. Moi, je connaissais pas beaucoup de Chase, fait que j'ai été avec des... on est allé... Avec Jeff, en fait, on est allé un peu plus en profondeur là, sur des détails de sa carrière, sur des détails de sa vie aussi que je connaissais pas. Fait que c'était un bel ajout là, que Jeff soit là pour faire l'épisode. Puis ça m'a permis de découvrir un lutteur québécois que je connaissais pas, qui était d'une génération avant... avant la mienne, avant que je commence à écouter la lutte québécoise, avant que je commence à suivre la lutte québécoise. Donc c'était bien plaisant. J'ai découvert... quelqu'un qui était un excellent lutteur là, durant cette période-là. Puis on a même eu des petits scoops, là, justement, vers la fin. Là, peut-être qu'un éventuel retour de Chase Ironside pourrait être sur la table dans les prochaines années. On n'a pas de date, mais on en a parlé. Donc, c'est déjà... on a semé quelque chose là, au podcast Louis Allo cette semaine. Je voulais mentionner aussi, on cherche à un moment donné dans l'épisode qui Charles avait battu pour devenir le champion québécois. Pour la première fois ou la deuxième fois, je crois, là, on cherchait c'était qui, on l'a pas trouvé, puis on pensait que c'était un membre là, d'une faction qui était en rivalité avec Charles. Mais finalement, après l'épisode, j'ai été faire mes recherches et j'ai découvert que c'était Marc le Grizzly que Chase avait battu, qui avait été son coach. On parle beaucoup de Marc pendant le podcast, donc on a résolu le mystère après l'épisode et je l'annonce ici. Donc quand on cherche pendant plusieurs secondes qui était l'adversaire de Charles, il s'agissait de Marc le Grizzly. Donc ceci étant dit, on passe à l'épisode numéro 42 du podcast Louis Allo, à la co-animation Jean-François Kelly et l'invité Chase Ironside.
Idéalement, si vous êtes capable de fermer vos sonneries, ça serait le moment idéal.
C'est déjà fait,
Charles.
Fermez mon téléphone.
C'est fermé ton téléphone. Et Charles, je suis bien content de te recevoir aujourd'hui au podcast Louis Allo. Louis Allo avec votre hôte Louis-Michel Lelièvre.
Ouais, j'aime ça quand Jeff est au podcast parce qu'on ne sait pas trop quand ça commence.
Ouais, c'est ça.
Il prend le lead puis il me parle pas, fait que c'est correct. Mais oui, deuxième épisode de la saison... De Louis Allo de la troisième saison. Jeff Kelly qui fait un retour à la co-animation. Ça va bien, Jeff?
Ça va super bien. Content d'être ici à Louis Allo, qui est de plus en plus populaire. Surtout, ben oui, mais une très bonne notoriété maintenant. Tu as reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artisans du sport récemment. Très belle variété surtout. Félicitations pour ton acharnement, parce que c'est sûrement pas facile d'avoir les invités que tu as eus.
Ben non, c'est pas toujours facile, mais des fois, on essaie, on a des bons contacts. Puis c'est le cas aujourd'hui, Jeff. On se parle beaucoup, on se le cachera pas. Là, on est des amis dans la vie.
Ah oui, ben oui, mais c'est sûr et certain.
Puis, c'est ça, je te demandais justement là, pendant la saison morte de Louis Allo, qui est-ce que tu aimerais interviewer au podcast, qui est-ce que tu aimerais recevoir. Puis je vais te laisser l'honneur de le présenter parce que tu connais l'invité de la journée pas mal plus que moi. Hein.
Pour vrai, on lui a rendu hommage à plusieurs reprises, à plusieurs occasions, à l'invité d'aujourd'hui. C'est pas ça qu'on veut faire aujourd'hui. On veut lui laisser la parole pour parler lui-même de sa carrière, pour parler lui-même de qu'est-ce qui l'entoure. Pour revenir à qu'est-ce que tu disais, oui, tu me disais qui veux-tu qu'on passe en entrevue dans le monde de la lutte professionnelle, dans la lutte québécoise? Et le premier nom, ben, c'est notre invité aujourd'hui. On lui souhaite la bienvenue, Chase Ironside, de son vrai nom, Charles Dumoulin. Alors, bonjour, Charles.
Bien, bonjour. Merci de l'invitation. Hein. Merci. Enchanté, Louis et JF.
Ça fait longtemps qu'on se connaît.
Ça fait une belle.
Oui, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est vu. La dernière fois que tu es venu chez moi parce qu'on enregistre chez moi aujourd'hui. C'était durant un show de la UFC et avec ton gabarit, tu avais brisé ma banquette de salon. Ah, c'était incroyable, mais c'est toujours un plaisir de te voir. Tu as une bonne humeur contagieuse malgré ton air bête.
Je savais qu'elle allait en parler. C'était sûr.
Il fallait que ça sorte en
ben
partant.
Ben oui.
Parce que c'est ça qu'on a l'impression de Chase Ironside, de ton personnage du moins. Que tu es tout le temps focus. On dirait que tu es toujours en personnage parce que c'est beau en même temps, parce que la personne dans la vraie vie n'est pas très loin du personnage qu'était Chase Ironside. Est-ce que je me trompe?
Pas du tout. Puis c'est souvent le cas avec des bons lutteurs ou des bons personnages. C'est souvent ceux qui sont pas très loin de la personne même ou qui est la personne même, mais exagérée 20 fois, tu sais. Fait que moi, Chase Ironside, c'était pas mal ce que j'aurais peut-être voulu être dans la vie, là, tu sais. Un gars qui fait pas mal tout ce qu'il veut, puis qui est bon dans tout, puis il était pas nécessairement ultra arrogant, mais il était précis dans ce qu'il fait, il savait où il s'en allait, puis il était efficace au plus haut point, là, c'était...
Je suis content justement d'avoir JF là aujourd'hui parce que, contrairement à d'habitude, JF va avoir le rôle d'expert aujourd'hui avec Chase parce que, comme je te l'ai dit avant d'enregistrer, j'avais jamais vu un de tes combats, je te connaissais parce que j'avais entendu beaucoup parler. Fait que JF va pouvoir rentrer plus en détail dans ces choses-là, mais moi je vais te demander peut-être des questions de base pour les gens qui te connaissent un peu moins. Mais si tu pouvais justement décrire un peu ton personnage, ton style de lutte que tu avais à ce moment-là.
Je vais commencer par le nom.
Okay? Ouais.
Parce que le nom, là, je vais vous le dire, là, j'ai pas cherché bien loin. Okay? Parce que Chase, c'est un peu un diminutif de Charles, qui est mon vrai prénom en anglais. Puis Ironside, ben écoute, moi je tripais sur l'acteur Michael Ironside, qui a joué dans Starship Trooper à l'époque. Là. Puis il a fait beaucoup dans les jeux vidéo aussi, des voix et ainsi de suite. Puis moi, j'étais un gamer, fait que ça m'en donne bien. Mais puis j'adorais Ironside. Je trouvais que ça faisait lutte un peu comme nom, tu sais. Fait que je disais, ah, tiens, Chase Ironside, ça sonne bien. On va prendre ça.
Mais si on y va à partir de la base, moi, quand je t'ai connu, tu étais Piranha.
Oui.
Donc, mais j'imagine que c'est à cause quoi, de la force du poisson en tant que tel. C'est pourquoi que tu t'es appelé Piranha à ce moment-là?
Il me semble que c'est Bertrand Hébert qui avait trouvé le nom. Puis David Saint-Martin s'appelait Chacal. On était en équipe qui s'appelait Accès Interdit à l'époque. Je trouve que c'est un nom, même encore aujourd'hui, là, tu pourrais le dire en anglais, puis je trouve que c'est un très beau nom par équipe. Là. Mm-hmm. Puis on rentrait avec des pancartes entrées interdites. Là. C'était excellent. Là. On faisait tout le monde avec ça. C'était vraiment le fun. Mais puis c'est ça. Au début, c'était Thompson. Là. Tous les nouveaux, oui. C'était tout le temps des Thompson à NCW. Fait que, puis là, à un moment donné, on a essayé de se trouver un nom, puis là, Dave, il avait réussi à trouver Chacal pour lui. Fait qu'on on s'en allait dans la même veine, puis...
Pour mettre les gens en contexte également, c'était pas un hasard que les gens s'appelaient Thompson. Non, c'était un running gag à la NCW.
Ouais,
comme
exactement.
Quoi, toutes les recrues qui arrivaient, c'était soit Charles Thompson, David Thompson. Donc, c'était si t'étais un Thompson, généralement, t'étais une recrue qui effectuait son premier combat.
D'ailleurs, la plupart des gars ont passé par là.
Ça s'appelait tout Thompson. Tout
le monde. Ouais. À part les OG là, qu'on appelle okay. Là, les premiers, là.
Ouais.
Comme Frank Blues, puis ces gars-là, là, Iceman, mais ça, c'était tous des gars. Je pense pas qu'ils ont passé par les Thompson, eux autres.
Vous étiez des personnalités fortes à la base. Donc, moi, le premier spectacle de la NCW que je suis allé voir, t'en faisais partie, je suis devenu automatiquement un fan de trois personnes, en fait. De Chacal, de toi, parce que je pense que vous étiez une équipe, mais je m'en rappelle principalement de vos personnages et de Frankie the Mobster. Ouais. Vraiment, vous étiez les trois personnages les plus forts du premier spectacle de lutte québécoise que je suis allé voir. Et c'est en grande partie pourquoi que j'ai accroché à la lutte québécoise. Donc, si on recule à ce moment-là, tu as commencé en quelle année, enfin, à la NCW comme régulier?
Comme régulier, là, en 97.
97. Et tu es resté avec Chacal.
En été 97. Oui, j'ai resté avec lui en équipe là, au début pendant un bon bout. En fait, je peux te conter comment c'est arrivé qu'on
oui,
soit en équipe, si tu veux.
Oui.
C'est quand même une anecdote assez cocasse. dans nos entraînements avec Marc Pilon, qui était notre, notre coach officiel à NCW.
Marc Le Grizzly.
Marc Le Grizzly, oui, exact. Moi et Dave, quand on pratiquait ensemble, on se blessait tout le temps avec des niaiseries. J'allais le prendre par les cheveux pour le lever de la terre, j'y mettais le pouce dans l'œil. C'était tout le temps des niaiseries comme ça, OK? Fait que là, Marc, à un moment donné, dit « Bon, là, les boys, là, c'est assez, là. On vous met en équipe.
» Vous luttez plus contre, là. C'est fini.
Puis là, après ça, ça a super bien été. Puis, veut pas, ben on a une chimie, moi puis Dave, ensemble. Dave, c'est comme plus le... Dans, côté personnage, là, c'est comme plus le cerveau de l'équipe. Puis moi, je suis comme plus le muscle de l'équipe, là, tu sais.
OK. Puis... Et Marc Le Grizzly, c'est lui qui vous a mis en équipe, mais est-ce que c'était ça que tu avais en tête d'être en équipe à la base? Ou...
Non, à la base, non. Moi, j'ai toujours pensé là, que j'aurais pu être le champion du monde. Mm-hmm. Là. Moi, c'était un rêve, une passion. Puis quand j'ai commencé à le faire, c'est là que je me suis dit, c'est plus juste ça, là. C'est ce que je vais faire dans la vie. Là. Fait que oui, j'ai toujours rêvé d'être en simple. Mais ça allait tellement bien avec Dave en équipe que...
Puis je pense, là, moi, je suis un outsider là, dans le monde de la lutte québécoise, mais je pense que pour commencer à être en équipe, ça doit quand même faciliter la tâche pour apprendre les
Exact, oui. Oui, parce que tu as souvent plus de temps aussi à regarder les autres aller. Hein. Puis la lutte, c'est faut que tu sois très autodidacte. Mm-hmm. C'est beau ce que tu apprends en ayant des cours de lutte, mais tu l'apprends... « On the fly, on the spot ». Ouais. Ben oui. Tu l'apprends dans le ring, puis c'est comme ça que tu fais ton expérience. Mm-hmm. Puis plus tu en regardes, pour les jeunes qui veulent en faire, la lutte, là, plus tu en regardes, plus tu apprends.
Je veux pas que ce soit un hommage aujourd'hui, mais j'ai texté David Saint-Martin. Et c'est le seul bout, disons, entre guillemets, hommage qu'il va y avoir aujourd'hui durant le podcast, parce que j'ai trouvé ça beau comme texte, puis en même temps... 100% véridique. Donc, je cite David Saint-Martin, alias Chacal. « Chase m'a poussé à dépasser mes limites. Quand tu travailles avec le meilleur, le plus passionné, le plus complet et que tu peux te faire une place dans le monde de la lutte, tu n'as pas le choix de te pousser au maximum et même plus pour au moins essayer de le suivre. En travaillant avec lui en équipe ou comme adversaire, il fallait toujours être sur son A-game. Sinon, on se faisait bouffer tout cru. Alors, on se préparait encore plus que jamais, mais ce n'était pas difficile de me motiver à repousser mes limites. Son enthousiasme était contagieux. Il ne s'assoyait pas sur ses lauriers. Il s'améliorait constamment. Je faisais tout ce que je pouvais pour le suivre. Il fallait en faire encore plus la fois suivante, car il atteignait un niveau de plus à chaque fois. Ça m'a donné une drive que je n'avais pas avant. Ça a tout fait la différence pour la suite dans ma carrière dans lutte. Et c'est un message signé David Saint-Martin, le Chacal, qui, selon moi, est un des plus grands lutteurs québécois de l'ère moderne.
Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Lui, il est au Japon aussi. Hein? Ça, j'ai été un peu jaloux de ça dans le temps. Oui. J'aurais aimé ça y aller avec lui. Mais écoute, je suis très content pour lui, là, on s'entend là. Non, oui, je suis d'accord avec toi. C'est un des grands talents qu'on a eu au Québec.
Puis la preuve, un des plus grands talents au Québec et qui m'écrivent ça aujourd'hui de façon spontanée, dans le sens, je l'ai texté, il m'a répondu 5 minutes plus tard, ça venait de son cœur. Tu as inspiré ton partenaire, tu as inspiré toute une génération de lutteurs et c'est la raison pour laquelle je voulais absolument t'avoir en entrevue aujourd'hui. Donc, on va commencer comme on a fait, c'est-à-dire avec la base. Tu étais en équipe avec David Saint-Martin, le Chacal. Tu t'es fait imposer en équipe avec lui. Pendant combien de temps ça a duré, votre alliance?
Me semble que ça a duré jusqu'à à peu près 2000. Si je ne me trompe pas, Frankie the Mobster était supposé avoir une run pour le championnat québécois. Puis, il a décidé d'aller à ICW à cette époque-là. Qui était notre fédération rivale. Si je me souviens bien, là, c'est ça qui s'est passé. Puis Bertrand Hébert à Joliette, ça, je vais toujours m'en souvenir, avec Frank Blues était là aussi. Il est venu me voir, puis il m'a dit « Est-ce que tu es prête? » Ben, j'ai dit « Je suis prête de quoi? » Ben, serais-tu prête à faire être champion? Es-tu prête à avoir la NCW sur tes épaules? Je me souviens, ma réponse a été les jambes, ils me shakaient tout seul, puis je voulais pas le démontrer. Je voulais leur montrer que j'étais prête, mais ça sortait pas. Je lui ai dit oui. Puis c'est comme ça que ça a commencé, ma run. pour me rendre à 6 fois champion québécois. Là.
6 fois, OK. Ben, ouais. C'est ça, comme je disais...
Quatre fois par équipe, puis une fois de la TV.
OK. C'est ça, moi, comme j'ai dit tantôt, je connaissais pas ta carrière, fait que j'aimerais ça juste... Parle-moi de ces runs-là de champion. Comment ça arrivait, mettons, la première fois que tu as eu la ceinture sur tes épaules?
Ce que je me souviens le plus, c'est que j'ai dormi avec cette ceinture-là pendant 3 mois de temps.
Vraiment, là, dans le sens que dans ton lit.
J'ai mon oreiller, là, puis j'ai ma ceinture à côté. Puis il y a des fois, je la prends comme si c'était mon nounours. Ouais. Je la prends dans mes bras, puis je m'endors avec. J'étais chez nous, puis je me souviens aussi que j'ai fait la même chose que ce que j'ai fait dans ma première pratique à vie de lutte. Ça a été de parler au mur dans mon personnage, puis me disant, vous voyez, là, je vous la montre. Là. C'est ouais. Moi le vrai. Là. C'est moi qui l'a, puis là, je galais au mur. T'sais.
C'est fou. Il y a beaucoup de monde qui ont commencé comme ça. Moi, en tant qu'annonceur, j'ai commencé comme ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres méthodes de faire des promos qu'en se pratiquant avec le mur.
Miroir, là, miroir. C'est très efficace. Sérieusement, oh, là, oui. C'est vraiment stupide, mais c'est très efficace parce que tu te vois live dans tes expressions que tu prends. Tu sais, si tu veux démontrer une émotion, il faut que tu vives ton émotion. Faut que tu y crois ton émotion, entre guillemets. Parce que ça reste toujours un personnage, ça reste toujours de la fiction. Mais faut que tu y croies si tu veux que le monde le croie aussi dans la foule.
Est-ce qu'il y avait pas mal de promos au micro de la part des lutteurs à ce moment-là à la NCW?
Pas tant que ça, je te dirais. Je te dirais peut-être plus ceux qui sont vraiment au top de la fédération ou les plus vétérans. Mmh. Là, c'était surtout eux autres qui en faisaient plus que nous autres. Je te dirais, nous autres, on a un peu changé, hein, la NCW. J'espère pour le mieux, là. Je pense que oui. Mais.
C'est une belle évolution, du moins.
Oui, oui. Puis on était dans un changement de lutte. Tu sais, la lutte, c'est très cyclique, hein. Mm-hmm. Puis on était dans une vague un petit peu montante, là, avec la WWE à l'époque, la WWF, avec Stone Cold, puis tout qui commençait à être populaire, The Rock. Et nous autres, on a comme suivi cette vague-là, mais on changeait un petit peu le look puis le style de la lutte qui avait été au Québec pendant des années, le même. Là,
ça ressemblait à quoi, justement, la lutte québécoise là, au tournant des années, au début des années 2000? Là? Parce que moi, je connais évidemment plus la lutte québécoise d'aujourd'hui, là, commencer, mais c'était comment, justement, là, à ce moment-là?
C'était vieille garde, là, mm-hmm. tu mets ta main dans ton speedo, là, puis tu fais semblant que t'as un brass knuckle dans les mains, mais t'as rien, là, puis le monde capote, là. Mm-hmm. Tu te mets dos au ref, là, puis ça, c'est la vieille garde, tu sais. Fait qu'il fallait trouver d'autres moyens pour essayer de changer ça un peu, là, tu sais. On a gardé ces anciennes choses-là, mais on a plus évolué, mm-hmm. là, avec plus de rythme dans nos matchs, avec plus de vitesse, peut-être, aussi, d'exécution. Plus hardcore un peu aussi peut-être.
Puis tu disais tantôt que Frankie était parti chez votre rival. C'est quelque chose qu'on entend un peu moins là, aujourd'hui justement. Les lutteurs qui se promènent pas mal dans toutes les fédérations, à ce moment-là c'était plus les gars de la NCW luttaient seulement à NCW.
Oui, oui. Si, à cette époque-là, ouais, oui. C'est ça, ça a changé quand même assez vite. Mais ça aussi c'était vieille garde comme mentalité un peu plus.
Les territoires. Là. Comme,
ouais, exact, exact. Puis la WWF puis la WCW à l'époque, ils l'ont vécu, ouais, ça aussi. Là. Ils ont peut-être fini ce mode-là un petit peu plus de bonheur que nous autres, là, mais ils l'ont vécu ça aussi. Là. Dans les années 70, ici, ben, c'était le Grand Prix. Contre,
c'est ça, oui.
Tu sais, c'est ça. Là. C'était de la vieille garde un peu comme mentalité.
Mais avant que tu commences officiellement l'entraînement comme lutteur à la NCW, est-ce que tu allais voir les spectacles ou tu avais juste entendu parler de l'école?
OK. Je vais te dire exactement comment ça s'est passé. C'est grâce à mon cousin qui est mort à ses 30 ans. C'est Jeff. En fait, c'est que je n'étais pas vraiment un fan de lutte. Moi, j'étudiais en cinéma au Cégep Montmorency. C'est soit que je m'en allais comédien ou humoriste.
Okay.
C'était soit ça. Okay? J'essayais de faire le plus de shows possible. Puis bon. À un moment donné, mon cousin, mais j'étais très sportif aussi. Mon cousin m'appelle puis il dit « Hey, la WWF s'en vient au Centre Molson à l'époque. » Il dit « Ça te tente-tu d'aller avec moi? » Parce que mon cousin était plus jeune que moi puis son père voulait pas qu'il prenne le métro. Fait que tout seul. Fait que j'ai dit, ben oui, moi, il allait avec toi. Avec mon bon gabarit, moi, t'as le protégé, mon cousin, tu sais.
Ah, si vous connaissez pas Charles, prenez vos informations, c'est toute une pièce d'homme quand même.
fait qu'on prend le métro, on s'en va là-bas, tout, puis on était dans le parterre, je me souviens bien, troisième rangée, sur le bord du ring. C'était un house show, là.
Okay, un spectacle local non télévisé, là.
Oui, okay. exact. En diagonale de moi, t'avais Marc, puis t'avais, c'est quoi son nom, là, celui avec les cheveux longs, là, à l'époque, là, il imitait des...
Yvan l'imitateur.
OK,
d'accord, ouais.
C'est ça. Fait qu'Yvan l'imitateur, il était là, puis il me regardait souvent, là. Puis, je regarde mon cousin, à un moment donné, il se dit, là, ça me gosse un peu, là. Ouais, je le trouve fatigant, là, tu sais. Je pense que je vais aller le voir. Mon cousin dit, hey, arrête ça. Là. Je dis, non, je vais aller le voir. Là, je t'ai dit. Là. Fait que je m'en vais le voir. Je dis, y a-t-il un problème? Ou... Il dit, non, il dit, t'as de l'air à aimer ça à la lutte. Je dis, ben oui.
Spectacle de lutte, oui.
Puis là, moi, de ma grande naïveté, j'ai comme tout oublié qu'il y avait un problème d'un coup sec. Dans ma tête, qu'il y avait un problème, en tout cas. Puis là, j'ai dit, oh, ouais, ben moi, j'aime ça. J'aime ça, tout ce qui est spectacle. J'étudie en cinéma. Puis
ouais.
C'est un sport en même temps. Fait que ça rassemble tout pas mal. Ma lumière, juste avec ce moment-là, ma lumière dans ma tête s'est allumée. Là, puis là, ben Marc, à côté, il dit, ben je voulais la carte de la NCW. Il dit, ça te tente, appelle-moi. Ils disent, on cherche toujours des recrues. Puis.
Ah, c'est le fun.
Là, dans ma tête, ça a été. Hein, ça existe à Montréal, ça?
Ben ouais, c'est ça.
C'est pas ça. Moi, dans ma tête, c'est la WWF, puis il arrive à rien d'autre.
Ouais.
Hein? C'était ça, là, à
l'époque. On se demandait tous, c'était quoi la porte d'entrée, justement?
Ben exact. Fait que là, je vous le dis, là, ça l'a donné comme ça. Trois jours après, j'ai appelé Marc le Grizzly. Trois jours après, j'avais mon premier cours à Saint-Roch-de-la-Chigan. Puis trois mois après, j'étais prêt d'être dans le ring.
Wow.
Ça a été aussi vite que ça, là. Je l'avais dans le sang, là. Puis, tu sais, tantôt, je te parlais, là, que je parle au mur avec ma ceinture, là. Dans mon premier cours, je connais personne, là. Mm-hmm. J'ai juste vu Marc de face une fois, là. Je le connais pas, moi, non plus, ouais. Là. Puis, la première affaire que j'ai faite, c'est que je me suis préparé. J'étais prête avant tout le monde. Je me suis retourné vers le mur, puis je me faisais une promo au mur. Ça, Marc, il a regardé, je ne sais pas trop qui, là, qui m'a raconté, mais regardez, il dit, on devait faire, lui, ici. Qu'est-ce que tu fais là?
Connaissant Marc, là, il se questionnait, puis pas à peu près à ce moment-là.
Ben
donc, si je comprends bien, tu n'as même pas vu un spectacle de la NCW avant ton premier cours.
Jamais, parce que je ne pensais même pas que ça existait, de la lutte à Montréal.
C'est incroyable quand tu penses à ça. Donc, tu as fait ton premier cours, ensuite, tu as vu ton premier spectacle. Là, tu as commencé à voir... peut-être quelqu'un en tête que tu aimais en particulier. Est-ce que tu avais un lutteur que tu aimais en particulier à la NCW par rapport au premier spectacle?
Ben, je te dirais Frank Blues, moi, m'avait attiré.
Oui.
Puis, petite anecdote de même, dans mon premier show avec Frank Blues, je ne sais pas s'il va s'en souvenir, lui, je pense pas, parce que c'est tellement un bon gars, lui, tu sais. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, là, mais je suis dans le vestiaire, là, c'était probablement une de mes premières fois là, dans le vestiaire de la NCW. Puis je ne sais pas si tu te rappelles, là, à Villeray, là, ouais. on était au deuxième étage, les vestiaires. Hein?
Oui.
Faisait chaud en calvasse là-dedans. En tout cas, on était au deuxième étage là-bas, OK? Frank Blues, il était. Moi, j'ai soif. Là. J'ai soif pas à peu près. Là. J'ai pas de bouteille d'eau, j'ai soif. Je regarde dans le vestiaire, je vois Frank Blues qui boit dans sa bouteille d'eau. Première affaire que j'ai faite, je ne connais même pas le gars. OK? Je le connais même pas, là. Je sais c'est qui, mais je le connais pas. Je suis allé le voir, puis je dis, hey, ça te dérangerait-tu, je t'ai pas en train de gorger. Marc, il m'a pogné par le bras, il me tasse. Je dis, tu fais là, le comique. C'est dans le vestiaire, là, quand t'es pas connu, là. Tu prends ton trou, mon chum.
Non, ouais,
c'est, ça a été ma première leçon de là.
C'était carrément ça. Comme tu peux voir, Louis, ça l'a changé pas à peu près. Là. Le vestiaire, ensuite, s'est transformé en lieu d'entraînement. Ouais, donc
je veux juste te dire, excuse, je t'interromps pour finir. Mais là, passé, ça a été.
Ah oui, bon.
Ça l'a même pas dérangé. Il est comme ça, Frank Blues. Il est comme ça.
Oui, vous le connaissez maintenant comme François Poirier, ouais, un exact. Être formidable, exact. Pour vrai. Mais le vestiaire de l'Anti-WB à ce moment-là, ben, après les spectacles, se transformait en lieu d'entraînement de Marc Le Grizzly. C'était mm-hmm. le House of Bums. Ouais. Toi, comment tu as vécu tes premiers? Ben, c'était des tombées au sol, les bums. Mm-hmm. C'est-à-dire, vous appreniez comment tomber au sol.
Ouais, exact.
C'était sur des tapis de gymnase seulement, donc c'est très, très, très dur. Il ouais. y en a qui abandonnent après le premier cours. Toi, tu as persévéré. Mais est-ce que tu as trouvé quand même ça difficile, les entraînements?
Épouvantable. Okay. La première semaine, c'est la pire, où tu as carrément de la misère à t'asseoir sur une chaise. Normalement, comme n'importe quel être humain peut s'asseoir sur une chaise, là, la première semaine, tu as de la misère. Mal au cou, mal à la tête, mal au bras, mal au dos, évidemment, parce que tu tombes sur le dos. C'est épouvantable. Tu en as de la misère à marcher. Mm-hmm. Mais un coup que tu as passé ta première semaine, après ça, ça va bien. Ton corps s'habitue, puis...
Parce que, je ne sais pas à ton époque, mais c'était par étapes à une certaine époque à la NCW, le vestiaire au deuxième étage sur des tapis de gymnase. Et ensuite, quand tu passais le test, après quelques cours, même des fois quelques mois, ouais. tu allais officiellement sur le ring.
Ouais.
Comment tu t'es senti la première fois que tu es allé sur un ring pour l'entraînement?
C'était... Comment je pourrais dire ça? C'était la lumière au bout du tunnel.
Ouais.
Hein? C'était... Enfin, je suis rendu... Même si, écoute, les étapes, il y en a plein d'autres à faire, des étapes, là. Mais enfin, je suis rendu où ce que je veux, puis j'ai su tout de suite, en étant entre les trois cordes, que c'est ça que je voulais faire. Que ça allait être ça, ma vie. Je me suis pas posé de questions. Ça a été tout de suite, là, instantané, c'est ça que je veux faire dans la vie.
Un déclic direct, là, dans le fond.
Oui, exact. Ouais, ouais.
C'était quoi? Tu disais que tu étais quand même sportif là, avant de commencer la lutte. Est-ce que tu avais un background de sport de combat ou qui pouvait t'aider un peu dans la lutte?
Non, j'ai jamais eu vraiment le sport de combat. Par contre, j'étais un excellent joueur de soccer. Okay. J'ai joué à Conquérant 3A, qui était le plus haut à l'époque, parce qu'à l'époque, tu n'avais pas l'impact à Montréal. Le plus haut que tu pouvais te rendre, c'était Conquérant 3A. J'ai joué aux États-Unis souvent au soccer dans les gros tournois avec l'équipe Québec. Puis... fait les Jeux du Québec souvent. Puis ensuite, j'ai joué au hockey. J'étais excellent aussi au hockey, mais pas sur glace.
OK.
OK. Je ne sais pas ce que j'avais. Moi puis le patin, là, ça n'allait pas ensemble. OK. Par contre, j'avais une slap shot de l'enfer. Secondaire 5, 92 mph. Okay. J'avais 17 ans.
OK, excusez. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Louis.
Ben, ça veut dire que c'est vite en tabarnouche.
OK, d'accord.
C'est 92 000 à l'heure.
Ah, voilà. D'accord. Oh là là.
Chara.
Oui.
Vous avez des noms Chara. 105 000 à l'heure.
Pas de moi, je l'avais.
À 17 ans, j'avais 92 mph.
Puis, je suis un gars de hockey aussi, comme je te disais. On regarde le match des étoiles, puis souvent, il y a des joueurs qui ça tourne autour de ça. Oh, 90,
oui, oui, tout à fait.
Là,
mais je te le dis, là, c'était la seule chose que j'avais au hockey. Okay? J'étais un excellent défenseur. J'avais le gabarit pour être un défenseur, puis j'avais le slap shot de la pointe. Mais à part de ça, ne demande-moi pas de patinant reculons, puis okay, on s'entend. Là. Mais dans la rue, par exemple, j'étais redoutable. J'étais redoutable. Mais soccer, ça a été mon importance. Là.
Penses-tu, bon, c'est pas un sport de combat, mais penses-tu que ça t'a aidé un peu d'avoir ce background-là?
Ah, c'est sûr. Ou, ouais, hein? C'est sûr. Moi, j'étais demi-centre au soccer.
OK, ouais.
Puis normalement, un gars de ma shape, demi-centre, c'est pas une bonne idée parce que demi-centre, il faut qu'il fasse le terrain en l'offense, en défense. Ouais. Ben moi, j'avais la vision du jeu. Puis j'étais un bon leader.
OK.
Fait que j'étais capable de leader le monde. Hey, ça s'en va là-bas, place-toi là, toi check ce gars-là, c'est ça. J'avais pas besoin de courir autant qu'un vrai demi-centre.
Ouais.
J'avais la puissance dans mon tir. J'ai déjà scoré un but dans ma zone défensive avec la tête sur un dégagement du goaler jusqu'à l'autre bord du terrain. OK, j'ai fait ça une fois. J'ai plus jamais refait, par exemple, mais j'ai déjà fait ça. Disons que j'ai toujours été un numéro un dans le sport.
Okay.
Dans n'importe quel sport que j'ai joué. Toujours. J'ai toujours été agile. J'ai toujours été rapide pour ma grosseur. Puis ça m'a beaucoup aidé à la lutte. Mm-hmm. C'est quelque chose que je pense que j'ai été reconnu à la lutte. Là, d'être agile là, pour ma grosseur, là, faire de la troisième corde. Puis,
Donc ça, c'est le sport. Oui, bon, tout à fait, mais ça, c'est le sport. Tu parlais de que tu as étudié en théâtre.
En cinéma.
Est-ce que tu avais terminé tes études?
Non, j'ai jamais terminé mes études.
OK.
J'ai embarqué dans la lutte là, à 120%.
Ah, c'est ça que je me posais comme question.
J'ai tout lâché ça. J'ai commencé à travailler dans un club. J'avais 18 ans au Scratch à Repentigny.
Oui.
Puis j'ai... C'est pas vrai, à l'époque, avec Dave, quand on a commencé, je travaillais sur la rue Chabanel dans une manufacture. Ça s'appelait... Je me souviens plus du nom. Ça commence par C, c'est sur Chabanel, là. Puis c'est de la broderie, là, eux autres, là, c'est de l'import-export de Velcro, puis ci, puis ça, puis je travaillais dans leur backstore, là, puis hein, c'était un de mes premiers jobs, genre, là. Puis Dave, lui, des fois, il venait me chercher après ça pour aller aux pratiques à Saint-Roch, ou il venait me chercher pour aller faire nos costumes à Repentigny, ou, tu sais, ainsi de suite. Dave, lui, là, c'était le gars de service, hein. Moi, j'avais pas de char à l'époque, c'était en autobus. Dave, il avait sa vieille minoune, il venait me chercher, on passait par la 40, puis... C'était des bons temps, c'était du bon temps.
Mais j'imagine que ce background-là en cinéma, tu parlais de l'humour aussi, ça t'a aidé dans ton jeu.
Ah, c'est clair, c'est clair. Oui, oui, c'est clair. J'ai fait de l'impro aussi.
OK, ouais, ça doit être phénoménal.
Oui, c'est sûr, ça l'aide. Ouais. Ça l'aide. Parce que c'est beau une promo devant un micro parler,
ouais.
Mais ton physique parle aussi. Hein. Fait que j'ai toujours dit aux lutteurs... La lutte, c'est ça se passe toujours dans les yeux. Mm-hmm. C'est ce que le monde voit. Ouais. Fait que si tu démontres pas de l'émotion ou tu fais rien, le monde, ils te croiront pas. Pis c'est ce que je trouve que la AEW fait très bien.
Oui, parce qu'on parle de la All Elite, la lutte actuelle. Ouais, c'est... Mais... OK, mettons qu'on va faire un comparatif. On va revenir plus tard, ben, tantôt à ta carrière en ordre chronologique. Mm-hmm. Mais si tu te compares, pour replacer les gens, aux lutteurs actuels connus, ceux d'exemple de la All Elite ou la WWE, avec qui tu pourrais te comparer facilement? Qu'est-ce qui était ton personnage et ton côté athlétique?
Brian Cage, peut-être?
Ah oui. D'accord, je comprends. Ouais. Je vois tout à fait.
Je serais jamais... où j'ai jamais été aussi cut physiquement que lui, là. Coupé au couteau. Là. Mais c'est un gars très agile pour sa grosseur. Ouais. Puis j'ai vu des matchs de lui. Il te sort des moves des fois. Pis
un gars de ce shape-là.
C'est ça, exact. Là, tu t'imagines pas qu'un gars peut faire ça. Puis côté micro, je pense pas, moi, que j'ai toujours été un des tops au micro. Je suis capable d'en faire des bonnes promos, là, mais je pense pas que... Moi, il faut que tu me donnes une direction. C'est rare que je suis capable d'inventer ça on the fly.
Moi, qu'est-ce que je me rappelle des promos de Chase Ironside, même de Piranha avant, c'était que le monde t'écoutait. Je me souviens pas nécessairement d'une promo, mais je me rappelle ton regard. Quand tu prenais le micro, c'était « OK, on l'écoute, c'est important ». On veut absolument écouter qu'est-ce qu'il y a à nous dire. Puis ça, je me rappelle principalement de ça, de tes promos, c'est que les gens étaient à l'écoute quand tu prenais le micro sur un ring de lutte.
Je pense que c'est ça qui est le plus important, dans le fond. Tu sais. Parce que tu peux... si tu as cette aura-là, puis que tu es le pire gars au micro, le monde va t'écouter quand même.
Ouais. Ouais.
Tu comprends ce que je veux dire? Si tu peux être le meilleur au micro, mais si tu n'as pas cette aura-là ou tu ne commandes pas aux gens de t'écouter, ça marchera pas non plus.
T'sais. Mais c'est-tu un peu... Est-ce que tu es un peu, quand tu prends le micro, insécure? Parce que dans ma tête à moi, tes promos étaient vraiment bonnes. Est-ce que tu jugeais toi-même régulièrement?
Ça, c'est l'histoire de ma vie, mon cher.
OK. Parce que...
L'insécurité, le manque de confiance... Je le sais que j'ai été un des lutteurs importants dans cette époque-là au Québec, peut-être. Je veux pas sonner grosse tête, peut-être le plus important à cette époque-là. Mais je n'étais pas capable de me laisser... comment je pourrais dire?
T'es ton pire juge.
Ah, tout à fait, tout à fait.
Parce que les autres juges, mettons le jury, vraiment t'adoraient même n'importe quel promo au micro. Là. J'ai comme l'impression, je t'écoute depuis tantôt, c'est plus le fait que t'es le pire juge pour toi-même.
Tout à fait.
Peu importe que ce soit comme à l'entraînement.
Dans tout. Dans tout, j'ai toujours été comme ça. Toujours.
Parce que tu aurais dû voir ça, Louis, quand Chase Ironside, Piranha faisait une promo, le monde écoutait, le monde embarquait. Puis peu importe, c'était à n'importe quel moment de ta carrière en passant, tes cours d'acting, ça l'a paru. Donc, tu as eu un background dans le sport. En acting en tant que tel, tu as suivi les cours avec Marc Le Grizzly, ton partenariat sur le ring avec Chacal. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé à part ces quatre éléments-là dans ta carrière de lutte professionnelle?
Qu'est-ce qui m'a le plus aidé? Je vous disais tantôt de regarder beaucoup, là, je passais mes journées à regarder de la lutte. Du Japon, là, j'en ai écouté... Le IGPW là, à l'époque, là, en 1994, c'était rien que de ça que j'écoutais. D'ailleurs, mon idole, Dean Malenko, moi, je trouvais que ce gars-là flottait dans le ring. Ouais. C'était hallucinant. Il était pas bon au micro, par exemple. Je m'excuse, Dean, si tu m'entends. Je pense pas qu'il va m'entendre, là, mais je m'excuse, Dean, si tu m'entends. Mais ce gars-là, techniquement parlant, là, d'ailleurs, ça a toujours été. Ah oui, ça, il faut que je vous compte ça, parce que je ne voulais pas l'oublier. Moi et Frankie, ça a toujours été. Puis je le mets en guillemets là, pour ceux qui ne le voient pas. Là, ça a toujours été une guerre entre moi et lui. Okay. Ça. Qui est le meilleur?
Ah ouais?
Parce que Marc-André, une guerre amicale. Là, on s'entend, là, c'était une guerre entre nous autres, on avait du fun entre nous autres. Marc-André, lui, c'était le king du micro. Là.
Ah oui.
Hein, lui, là, c'est du charisme, là, ça il sort par les pores. Là. Okay? Côté technique, par exemple, un petit peu moins que moi. Fait que c'était ça un peu la bataille entre nous deux. Là, je vous le répète, c'est très amical. Là.
Moi, c'est une bonne guerre. Là.
Marc-André, c'est un de mes meilleurs chums que j'ai eu dans ma vie. Fait que c'était très amical. Mais...
faut souvent se comparer aux autres
oui.
pour être meilleur.
Oui. Oui, mais en fait, oui, c'était peut-être une compétition entre nous deux sans qu'on le sache. Tu sais. Mais puis c'est final, ça qui ça faisait aidé. Que. C'est ça qui faisait que ça nous poussait tout le temps. Ouais. Tu sais. C'est sûr, ça. C'est très important, ça même. Non, Dave oui. aussi, là, c'est la même chose, là.
Ben oui, mais justement, le texte que j'ai lu tantôt, non, c'est grâce à toi qu'il s'est amélioré. Donc, il a poussé l'effort encore plus, encore plus, encore plus. Tout est
d'ailleurs, nous trois ensemble, là. Quand on allait en quelque part, là, le monde il s'en souvenait. Là.
Ben oui.
Parler à Ron Hutchison à Toronto, puis il va vous le dire, là, les trois gars de Québec, il fallait qu'ils soient là à tous ces shows. Là. Tout le monde tripait sur nous autres.
C'est sûr. Donc, si on y va en ordre chronologique, tu as fait l'entraînement. Immédiatement après, donc immédiatement, je crois, tu étais en équipe avec Chacal, si je comprends bien l'histoire.
Oui, on a commencé ensemble pratiquement. Là. Peut-être un ou deux shows avant, j'étais enceinte, là, en étant Thompson.
Oui.
Puis ça, c'était notre test, dans le fond, là, si tu veux. Puis après ça, on est en équipe ensemble. Là.
J'imagine quelques fois champion par équipe ensemble.
Quatre fois champion par équipe au total.
Oh.
Trois fois, je pense, avec Chacal. Puis une fois, j'étais avec Chris Stevens.
Chris Stevens, voilà. Donc, tu étais en équipe avec Chacal. Après, tu es allé en simple.
Oui.
Et ensuite, tu es allé en équipe avec Chris Stevens.
Oui, exact.
OK. Et,
j'ai fait en simple aussi, mélangé pas mal dans ces années-là aussi.
Puis au départ, je pense, avec Accès Interdit, vous étiez du côté des vilains.
Tout le temps.
Seulement vilain avec Chacal?
Je pense qu'on a été... si on a été face, là, baby face, là, on n'a pas été longtemps baby face.
D'accord. Puis quand tu es allé en simple...
Parce que ça marchait tellement.
Oui.
Tellement. Quand on était mauvais.
Oui. Puis c'est à ce moment-là aussi que tu faisais partie où tu étais contre la mafia du Booker.
Exact, oui. Non, était... ça, c'était en simple.
En simple.
En simple, oui.
Ça, c'était vraiment...
C'était mes premiers runs pour être champion québécois. Ça,
ça c'était une véritable bombe, Louis, la mafia du Booker. Le Booker, c'était Bertrand Hébert. C'était sa mafia. Okay. Donc, son principal adversaire...
Iceman, Dream Killer, Géant Golem, Ben Le King.
Oui.
qui c'est, t'avais d'autres aussi? Il me semble qu'il y en avait d'autres. Frank Blues aussi, je pense, à un moment donné, il a été quelque chose.
Il y en a une panoplie. Oh, c'est un clan... merveilleux quand même, parce qu'on allait à la NCW, moi, premièrement, j'avais trippé sur Ben Le King, surtout parce qu'il rentrait sur Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Ça, j'ai dit, comme qui dans la lutte professionnelle entre sur la toune de Frank Sinatra, Fly Me to the Moon? Il arrivait puis il arrosait les gens avec un arrosoir. Ça, c'était formidable.
Je sais pas si lui qui a trouvé ça, cette toune-là, hein? J'imagine que oui.
Oh, mais j'en ai parlé peut-être quelques années après, oui, parce qu'il voulait de la réaction, justement, un peu comme celle que j'avais.
C'est sûr que ça marche, là. Mais il y a juste, ce que je veux dire, c'est que juste lui qui aurait pu penser à ça.
Ah, oh, c'est sûr. C'est sûr, il était comme connecté sur le divertissement, c'est ouais. incroyable. Mais toi, tu étais le principal adversaire à ce moment-là de la mafia du Booker, c'est ça qui t'a élevé en simple d'être de plus en plus populaire.
Ouais.
Quand tu as gagné en simple la première fois le championnat québécois du côté des bons, des gentils de la foot, j'imagine que la réaction aurait dû être vraiment populaire.
Ah, oh, c'était excellent, là. Puis c'est ce que j'espérais le plus aussi, là. Encore là, mon côté insécure, la première fois que j'ai vu que j'allais gagner la ceinture, là, j'étais assis dans le vestiaire, je parlais pas, là, puis je me parlais à moi-même, là. Puis je disais, hey, là, faut pas que je déçois personne, là. Puis là, c'est le temps, là, faut que la bombe sorte, là.
Puis est-ce que, justement, c'était une époque où le kayfabe est encore vraiment présent, là, chez les fans de lutte, ou...
Je te dirais que ça commençait à changer, là. Tu sais, quand je te dis qu'on était dans la nouvelle garde, là,
ouais,
la WWF, excuse-moi, à l'époque, commençait à changer aussi. Parce que là, t'avais un heel, un mauvais, qui était Stone Cold Steve Austin, mais que tout le monde aimait.
Ouais, c'est ça.
C'était jamais vu, ça, là. Là. Ouais. Ça marche pas, là. Hey, quoi, il envoie chier à la foule tout le temps, si, puis tout le monde capote. Ouais, c'est pas exact. Normal, là. Ben, nous autres, c'était un peu ça aussi, suivi, là, quelque part.
Dans le sens inverse aussi, il y avait Dwayne Johnson, The Rock, Rocky Maiva, qui était censé être populaire, mais finalement qui était détesté des spectateurs à ce moment-là.
Ouais.
Donc, c'est vraiment comme... Il y avait comme une attitude de la part des spectateurs. Puis la foule, je pense qu'elle met ton attitude à toi. C'est pour ça que ça t'a propulsé au sommet de la lutte québécoise à ce moment-là.
Oui, puis... Puis je remercie Marc-André, dans le fond, d'avoir été à ICW. ça m'a aidé beaucoup.
Mais est-ce que vous étiez quand même en compétition, toi et Frankie the Mobster, à ce moment-là, même si vous étiez dans deux fédérations?
Ah, toujours.
Oui?
Toujours, je pense. Encore là, c'est amical, hein, je le répète.
Oui,
je veux
tout
pas qu'on pense le contraire, là, mais oui, non, on l'a toujours été en quelque part. Même quand on habitait ensemble, je pense qu'on l'était.
j'essaie de me situer dans les années, mais de ce que je comprends, tu étais quand même assez jeune à ce moment-là. Tu devais être début vingtaine quand tu as eu tes premières runs de champion.
Champion québécois, oui, je pense même. Oui, 20.
Début vingtaine,
ouais,
c'est ça.
Début vingtaine, oui.
C'est l'âge que j'ai présentement.
Je pense pas
que je serais capable d'être champion d'une fédération. Là. Je veux dire, c'est quand même de la pression, je veux pas.
Ah, c'était énorme. Énorme. Puis tu sais, la NCW, c'était probablement... je peux pas parler pour la ICW parce que je la connaissais pas vraiment, là. Mais je pense que la NCW avait une très riche histoire aussi. Fait que c'était tout ça aussi qu'il y avait en arrière, hein, qui me poussait un peu. Puis tu sais, je voyais Frank Blues, puis Iceman, puis là, je me disais, hey, ces gars-là, c'était avant moi, ça, là, tu sais, il faut que...
Ah, la ICW avait quand même une très, très grande notoriété, une très grande histoire. Okay. Les deux fédérations, en fait, qu'on parle ici, la NCW et la ICW, avaient de très grandes histoires. La famille Proulx, l'UJ en tête. D'ailleurs, je pense que le premier ring de lutte Lanadière à NCW a été acheté de la ICW.
Ah, OK, je savais pas ça.
L'histoire des deux fédérations est quand même ultra riche. Puis tu as eu la chance de vivre dans une de ces deux fédérations-là. Mm-hmm. Donc, après le championnat québécois, tu l'as conservé combien de temps à peu près, le championnat?
Ah, mon Dieu, pratiquement un an, je me trompe pas la première fois.
Un an, c'est quand même beaucoup ce moment-là. Oui.
Beaucoup, puis je l'ai eu 6 fois au total.
Et tu t'appelais Chase Ironside à ce moment-là?
Oui, c'est... Ma run de champion québécois, là, c'est à peu près là qu'on a switché le nom. Ou okay. Peut-être. C'était-tu après la première run? Non, je pense que c'était à cette première run-là qu'on a changé de nom, je me souviens bien.
C'était pourquoi tu sentais le besoin de faire. C'était-tu pour séparer un peu le personnage en équipe du personnage en solo?
Oui, il y avait de ça beaucoup, mais c'était la mode aussi que les noms commençaient à changer. C'était plus des noms. C'était plus le Goggly Gooker.
C'est rendu un prénom, nom de famille. Là.
C'est ça. C'était plus Kurt Angle.
Ouais, je
crois. Tu sais, Triple H, ça a une connotation plus personnage, mais ça sonne quand même un peu comme un vrai nom. Triple H. Tu sais, ça fait comme un peu.
Ouais, je comprends.
Kurt Angle, mais Kurt Angle, c'est un nom, là.
Ouais.
Fait que c'est Shawn Michaels.
C'est plus des véritables noms qui peuvent exister dans la vie de tous les jours.
C'est ça. Ouais. Fait que, encore là, dans la nouvelle garde, fait que je me suis dit, m'a suivi la vague, m'a changé mon nom, puis j'ai trouvé Chase Ironside.
OK. Puis c'est est-ce que la NCW, ça a été la majeure partie de ta carrière, si je comprends bien, ou est-ce qu'après la NCW, est-ce qu'il y a un moment où tu as arrêté de lutter pour la NCW et tu as commencé à te promener un peu, ou c'était comme tout le temps en même temps? Tu disais que tu allais à Toronto, est-ce que tu continues?
Ben, j'ai pratiquement fait toutes les promotions au Québec, okay. À part la IWS peut-être, qui était plus vers la fin quand j'ai arrêté, elle.
Ouais, toi, relié à la IWS, j'imagine que tu as fait Madness, les shows de Marc Le Grizzly.
Oui, ça, je les ai faites, ouais, avec ces gars-là, oui.
Ouais, donc, pour la IWS, je ne me rappelle pas pour ta carrière à toi en tant que tel, mais je pense que tu as côtoyé les gens de la IWS, oui, le promoteur oui, Manny beaucoup. Et les autres, durant les spectacles Madness de Marc Le Grizzly.
J'ai fait tous les shows quasiment au début de Sunny War Cloud, la CWC, je pense que ça s'appelait à Québec.
Oui.
Jason Reaper, sa promotion aussi, j'ai été le faire là-bas.
Ouais, la CCW à Québec, mais Sunny War.
CCW, c'est ça.
C'était quoi la réaction des gens à Québec?
C'était aussi fort. Aussi fort.
Un des combats qui m'a marqué, c'était ton combat contre Pierre-Carl Ouellet, PCO. Une excellente plateforme, Madness, parce que Madness de Marc Le Grizzly, OK, les gens entendent parler de ça, puis ça. Exactement c'est quoi, mais c'était une excellente plateforme pour la lutte québécoise, là, réunissant la majorité des fédérations québécoises.
Surtout à cette époque-là. Là.
Oui, mais c'était difficile à cette époque-là. Louis en parlait tantôt, de réunir chacune des fédérations sous un même toit. Marc Le Grizzly a réussi.
C'était du jamais vu.
Oui, ça attirait les gens. Donc, il y avait pas mal de personnes qui n'avaient pas vu avant, qui t'ont vu là la première fois.
Puis d'avoir une vedette de l'extérieur aussi, là, c'était dur. Là, parce que des promotions là, au Québec, ils faisaient pas d'argent. Là.
Non. Ouais.
C'est très rare les promotions qui pouvaient dire qu'ils faisaient un peu d'argent. Les lutteurs n'étaient pas payés. Mais là, si tu faisais venir un gars de l'extérieur comme Samoa Joe, je sais pas combien il a coûté là, à Mac. Puis ensuite, c'est-à-dire avant ça, même on a fait Toronto à tous les mois, pratiquement, avec Ron Hutchison. C'était quelque chose, ça aussi.
Lui, vous voulez sur des
sites. Ah, lui là, il fallait qu'on soit là. Les trois Québécois, là, moi, le dire de même, on était ses chouchous.
Ouais.
Puis je me souviendrai toujours d'un match où c'était moi contre Frankie the Mobster puis Chacal. Fait que c'était un triple threat. Mm-hmm. On n'avait absolument pas dormi la veille. On a conduit de Montréal à Toronto, donc un 6h30, 7h quasiment. On est brûlé mort. Puis je vous le jure, là, on a sorti notre meilleur match à vie. Je suis pas mal sûr que les deux autres vous diraient la même chose aussi. On n'a absolument rien préparé. On n'était pas là, on était brûlé tête, là, je vous le dis. Là, okay? On dormait debout là, dans le vestiaire. On n'a rien préparé, mais on se connaissait tellement.
La chimie était tellement là.
Exact. Là. On n'a pas besoin de se parler dans le ring, puis tout se faisait tout seul. Puis je vous le dis, on a sorti probablement des meilleurs matchs qu'on a jamais fait.
Ça, c'est fort, c'est fort. Mais parlant de Toronto, je tiens absolument que tu racontes une anecdote. Il paraît qu'un lutteur du nom de El Diablero Junior est allé avec vous à Toronto.
Si tu sais quoi le pire, quand j'ai commencé à parler de Toronto, je me suis dit, il va me sortir ça, lui, c'est sûr.
C'est sorti, peux-tu la raconter maintenant?
Oui, exact. En fait, El Diablero, que je salue, du nom lutteur mexicain, je vais mettre en guillemets, Yannick, c'est un très bon gars en passant, je l'adore. on lui a dit, on lui fait comprendre qu'en chemin, en descendant vers Toronto, il va falloir qu'il mette son masque.
Parce que lui, c'est la première fois qu'il y allait, puis vous êtes habitué d'aller à Toronto. Là.
Exact. Fait qu'on lui a fait comprendre qu'il va falloir qu'il mette son masque. Parce qu'à Toronto, c'est très ce qu'on appelle kayfabe. Fait que c'est important pour eux autres. Fait que lui, écoute, de sa gentillesse même, de sa bonté même, il dit « Bah oui, pas de trouble. » Ben, une heure avant à peu près qu'on arrive à Toronto... Et je répète, une heure, c'est long, une heure, là. On lui a dit, si tu mets ton masque, mon chum. Ben, il l'a mis, il a pas dit un mot, il l'a mis. Hey, écoute, nous autres, on se retenait, là, pour pas être crampé dans le char. Quand on est arrivé à Toronto pour au Cactus Pete, ça s'appelait. Je m'en souviens encore, c'est sur Eglinton puis Don Valley South Park. OK? C'était sur Don Valley, South. Puis il fallait le prendre par Eglinton, c'est ça. Fait que, arrivé là-bas, il a encore son masque là, sur la tête. Là. Puis là, nous autres, on rentre avec nos valises, puis tout, puis lui, il nous suit. Là. Le gars, en rentrant, il dit, c'est qui, lui, avec le masque? Ah, il est avec nous autres. Je fais ça de même, disons, il fait une joke.
Un petit clin d'œil.
Ouais, 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 il fait, ah. Okay. Fait qu'il a réussi à rentrer tout. Ben, croyez-moi, croyez-moi pas, en revenant, on a fait la même affaire. Quand il est arrivé pour sortir, on dit, hey, tu mets ton masque, le kayfabe, c'est bien important. Il l'a gardé une heure dans le char en revenant aussi.
Il l'a même pas enlevé dans les vestiaires, j'imagine.
Je pense que oui, peut-être parfois, là, ça fait bien longtemps, là, mais je vous le dis, là, il l'a fait là, de A à Z, c'est vraiment drôle. Ouais.
J'espère que c'était une soirée d'été qui faisait vraiment chaud et qui était pogné dans son ventre.
Ben, peut-être. C'est une bonne question, je m'en souviens pas. Oui, ça se peut.
Donc, ça, c'était Toronto. Ton événement marquant dans la lutte québécoise à ce moment-là, mais vraiment marquant, est-ce que c'est ton championnat québécois ou c'est quelque chose d'autre qui est arrivé dans ta carrière?
À cette époque-là?
Dans
toute la carrière?
Toute ta carrière, au complet. Que ce soit tes débuts, ton championnat ou autre chose.
Moi, je te dirais, Samoa Joe, là, c'en était un pour moi qui était très, très, très important.
D'accord. Donc, quand il est venu à Madness,
Midsummer Madness, c'était supposé être moi contre Samoa Joe, un contre un.
À la place de Kevin Steen.
À la place de Kevin Steen. Et j'ai appelé mon coach, Marc Le Grizzly. Et je lui ai dit, écoute, Marc, tu le sais, j'ai eu un accident de tôt il n'y a pas longtemps, traumatisme crânien et tout. Je me sens pas à 100%. Puis moi, si je lutte avec Joe, là, un contre un, je veux être à 100% parce que moi, je veux lui prouver que je suis capable. Puis je veux que quand il sort de Montréal, qu'il se souvienne de moi. Moi, c'était ça qui est très important. Parce que c'est comme ça que ça marche. Là. Ça marche par contact. Si tu fais pas une bonne job, ben lui, plus tard, si tu arrives à ROH, mettons ce qu'il était, là, puis il dit, hey, lui, oublie ça, là, c'est de la merde, lui. Tu veux pas ça, il sort. Ben, tu veux pas ça, tu sais. Fait que pour moi, c'était bien important. Marc, il dit, ouais, mais il dit, si tu veux qu'on mette contre lui, là, ben, je sais pas, moi, Marc-André, Dave, Kevin Steen. Kevin Steen, il est fort, là, il marche bien, là. Ben, il est contre lui. Et Marc, il dit, t'es sûr, là? Je dis, ben oui, je te remercie, Marc, de l'opportunité. Puis je me suis fait chier toute ma vie avec ça. Hein. Je vous le dis, je le regrette encore aujourd'hui, là. Mais je dis, merci de l'opportunité, là. Mais je dis, je suis pas à 100%. Fait que Kevin Steen a commencé comme ça, puis pas longtemps après, peut-être une ou deux semaines après, je pense, Marc m'a appelé pour me dire, écoute, on pourrait faire un match par équipe, parce que lui, il voulait absolument que il voulait absolument que je sois avec Joe, lui.
Okay.
Je pense que c'était ça, la vision de Marc au départ, là, puis il voulait absolument. Fait qu'il s'est dit, là, on va faire deux pierres d'un coup, là, on va mettre Marc-André là-dedans, on va faire un match par équipe avec Joe. Puis Steen. Fait que le match singles de Kevin Steen, Samoa Joe, a été changé pendant le match pour un match par équipe. Moi, Frankie, ensemble contre Samoa Joe et Kevin Steen. Puis Joe, là, c'était un ange. Hein. Moi, j'y avais dit au départ, là, j'ai eu un accident d'auto, traumatisme crânien. J'ai dit, je te demande juste, là, je fais, pour ceux qui ne le voient pas, là, je fais comme un cadre de photo là, avec ma face, là, puis mes mains. J'ai dit, fais juste attention à ça, s'il te plaît. Ben là, il dit, t'es sûr que t'es correct? Je dis, oui, je suis correct pour lutter, là, ça fait un bout quand même, mais je te demande juste d'y faire attention. Ah, pas de trouble, man, pas de trouble. Puis là, on pratique le match, toute l'équipe. Puis à la fin, là, tu sais, lui, il faisait souvent en dehors du ring, là, il pitchait dans un guardrail, puis là, il te faisait asseoir sur la chaise dans le coin, là, pendant que t'es sonné. Puis là, il partait d'un bar, puis il te faisait un hell of a kick, là, direct dans la face. Fait que là, il m'installe dans le coin, il m'en fait deux, un suite de l'autre. Tout était super beau, clean au bout, il a fait attention à moi. Puis à la fin, il m'a regardé, puis il a juste fait une petite tape de même dans le cou. En voulant dire merci, mon job. Fait que c'est vraiment, là, un gars très classique. Oh, ouais. Un méchant bon gars, Joe. J'ai rien que des bons mots à dire, ce gars-là. Puis Steen aussi, évidemment.
Ouais. Bon, mais Steen, mais c'est qu'est-ce qui a propulsé sa carrière. Ouais. Donc, c'est là que Samoa Joe dit à Steen, You're really Mr. Wrestling. C'est mm-hmm. son chandail à Kevin Steen ouais. à ce moment-là. Mais aussi, on doit lever notre chapeau à Marc Le Grizzly parce qu'il a tout fait oui. pour que oui. ces gens, pour que ces gars en particulier aillent à la Ring of Honor à ce moment-là.
Oui, oui. Puis on n'était pas loin, là.
Ouais.
On était vraiment pas loin. Marc-André, je sais qu'il l'a fait, là. Frank Le Mobster, je sais qu'il l'a fait à ROH, là. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais on était à ça, là, d'être là, là. Parce que là, à toutes les fois qu'on descendait, là, à toutes les fois, pour aller voir un show de la ROH, à toutes les fois, on se rapprochait du monde qu'il y avait là-bas, là. Là, le monde venait qui nous connaissait, tout. À un moment donné, ils nous ont laissé aller sur le bord du ring pour aller checker le ring. Marc, il voulait absolument voir le ring, voir comment il est fait pour avoir des idées ici, tu
ouais.
comprends?
Bon, oui, donc, pour vous dire franchement, on allait, il prenait ses mesures, puis il a fait faire un ring avec des mesures à un soudeur qu'il connaissait. Non, Marc, il est intense à ce point-là.
Oh, hein. Oui. Marc, là, sans qu'il dise, c'est un génie, tout ça, lui-là. Là, tu sais, il a su découvrir des jeunes. Il a su comment pousser les jeunes. Puis, tout ce qu'il a fait, vous demanderez à n'importe qui, je pense que ça a été le meilleur coach de cette génération-là.
Ouais, hein?
Puis de loin, là.
Parce que,
de loin.
Parce que c'était une bonne époque, Louis, pour la lutte québécoise. Mais malheureusement, c'est moins archivé que l'époque actuelle. Mais c'est important. Mm-hmm. Je parlais avec un lutteur actuel récemment, du nom de Darce. Toxique juste auparavant.
Travis Toxic.
Oui, Travis Toxic. Puis, il m'a dit que pour lui, c'était important de respecter ce que les individus dans la lutte ont fait avant lui. Ben oui. J'ai trouvé ça beau. D'un lutteur de la génération actuelle de penser ça comme ça parce que oui, il faut tout le temps se rappeler qu'est-ce que les autres ont fait avant nous puis de dire, OK, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils nous ont ouvert la porte de telle manière parce qu'il y a moins d'archives. C'est quand même pas la WWE ici avec le WWE Network. Là.
Puis on le voit aujourd'hui que ça marche aussi. Là. Il n'y a jamais eu autant de lutteurs québécois dans des grosses fédérations aux États-Unis qu'aujourd'hui. Puis c'est tous des gars qui découlent la scène indépendante du Québécois à ce moment-là. On parlait de Kevin. Il y a 2.0 à All Elite aussi qui sont pas mal dans ces années-là aussi.
Oui. Ben, moi, j'ai lutté souvent.
C'est
avec
ça. Ouais.
Bon, mais c'est justement, ben, c'est un bon point, Louis. Puis en même temps.
Ouais, Generico.
Mais comment qu'on. Toi, là, quand tu as vu 2.0 la première fois, un sentiment de fierté, j'imagine, c'est ta génération.
Écoute,
là.
C'est sûr que je suis fier des autres.
Ils ont été des fans de toi à la base.
Ben, c'est ce qu'ils m'ont déjà dit, oui, en fait.
Oui.
Il y en a plusieurs qui m'ont dit ça aussi. Puis, mais je te dirais que je suis plus jaloux un peu des autres ces temps-ci, là.
Ouais, hein? Donc, ben, c'est le compétiteur en toi qui
ben
a fait
oui.
surface.
Tu sais, je me dis, hey, j'aimerais tout ça, moi aussi, manger une volée par Sting.
Oui, c'est.
Hein?
Tout à t'sais, fait.
Non, mais. T'as grandi avec ce gars-là.
Attaquer CM Punk à son retour.
Ben oui, hey, écoute. Ouais, mais tu sais, mais ça, tu penses.
Mais on va leur donner, là, quand même, 2.0. Là.
Ouais, mais regarde,
tellement content.
Ah
oh,
oui, ils ont fait les sacrifices qu'ils avaient à faire.
Oui.
Hein? Ça, c'est très important aussi. Ils ont tout laissé ce qu'il y avait ici, là.
Ben oui. Donc c'est
là, ils vivent où? En Floride, je pense?
On est en Floride. Ils ont déménagé grâce à NXT. Puis ensuite, après NXT, belle opportunité pour eux. Autant pour eux que pour la All Elite, parce que je trouve que la All Elite a saisi l'opportunité d'avoir leur talent.
Tout à fait.
Donc, puis...
S'il y en a qui sont bons au micro en passant, là, c'est bien ces deux-là. Là.
Ouais.
Ah, ben, ça fait partie des meilleurs.
Là, c'est... C'est sa coche là, pour ça. Là.
Oh, ils sont extraordinaires. Mais toi, tu disais que tu étais jaloux de Sting. Donc, Sting, c'était une de tes idoles, j'imagine. Donc, quand tu regardais la lutte à la WCW.
Ben, j'te... Oui et non. Okay. Oui et non. Moi, j'étais vraiment plus des gars comme Dean Malenko,
ouais.
Chris Jericho, Chris mm-hmm. Benoit, surtout à cette époque-là. Malheureusement, on sait ouais. ce qui s'est passé avec Benoit. Mais pas besoin de revenir là-dessus. Mais c'était plus des gars un peu cruiserweight qui savaient comment bouger un peu plus. Puis, malgré que Sting était capable quand même, là, on s'entend, là, mais lui, c'était vraiment une vieille garde là, que moi, je trouvais. Là, fait que j'étais un peu moins tripeux de Sting, mais c'est une légende, Sting.
Ben oui.
C'est ça, ouais.
T'sais, t'as beau pas aimer Hulk Hogan, mais j'en mangerais une volée, moi, par Hulk Hogan. Je le mangerais à son big boot, puis... hein,
ben, ben,
drop.
Tout le monde, à part peut-être Louis qui l'aime vraiment pas, là, mais Hulk Hogan, moi. Donc, juste prendre une photo avec lui au Comic Con à Montréal, j'ai eu la chair de poule, ben puis ouais. juste voir le regard des gens quand ils se promenaient du backstage, des coulisses du Comic Con jusqu'à sa table, tout le monde se retournait. Là. C'est ah ouais. Hulk Hogan qui est là. Là.
Ah ouais.
Tout le monde rêve de l'affronter quand tu es dans le monde de la lutte professionnelle.
Tu sais, il était non seulement le plus grand lutteur à cette époque-là, mais c'était probablement un des plus grands acteurs aussi.
Ça, ouais.
Ben il était partout, Hulk Hogan.
Tout le monde le connaît.
Partout. Ben oui. C'est même pas de ta génération, Louis. Puis tu non, le connais, ça, Hulk ouais. Hogan. Ouais, non, mais c'est ça. C'est vrai ouais. Pareil. Là. Fait que c'est sûr que je suis jaloux là, de tout point ouais. D'eau. Là.
Puis, ouais. Là, je veux juste raconter l'anecdote.
Mais je veux juste qu'on se comprenne. Je suis hyper content là, pour eux autres. Ouais. Okay? On s'entend. Là, Kevin Steen puis Generico, c'est la même chose.
Oui. Tout à fait.
Stu Grayson, Evil mm-hmm. ou non, ouais. C'est la même chose aussi. Ouais. Là.
Mm-hmm.
Puis, je sais pas si vous le savez, là, mais la lutte québécoise, là, est forte, là, est très, très bien représentée. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une bonne représentation des Québécois dans la lutte là, comme ça. Là.
Mm-hmm. C'est incroyable comme représentation. Là.
Avec PCO aussi. Qui
était PCO,
ouais, ben oui,
PCO, qui était champion aussi. De la Ring of Honor. Hey, écoute, il a établi un record, champion du monde à la Ring of Honor à 50 ans. Il faut ouais. Le faire. Là. Il a vécu écoute, son rêve de jeunesse à 50 ans. Donc, c'est incroyable, mais... Mettons, PCO, c'est possible à 50 ans. Toi, y a-tu quelque chose de possible? Parce que oui. T'es pas mal plus jeune que ça, là, quand
ouais,
même.
Ouais, moi, j'ai 42.
Voilà. T'es quand même 8 ans de plus jeune que PCO. Il a vécu son rêve à 50 ans. Toi, as-tu un autre rêve dans la lutte professionnelle?
Je te dirais, pour le moment, ce serait de se concentrer pour un retour.
Oh!
Scoop!
Scoop!
Scoop, mais c'est quelque chose que... Hey, tu m'aurais dit ça un matin, j'aurais eu la gueule à terre, là, pour vrai. Là. Là, j'ai encore... J'en ai des frissons, là, juste à penser à ton retour parce que, OK, on est allé au restaurant avant. Là, je peux pas dire que je suis surpris en ce moment même parce qu'on en a parlé. Mm-hmm. Mais quand même, un retour de Chase Ironside, juste avec tes expressions faciales, j'ai juste hâte de voir. Ton air bête. Puis à quel point ton retour va être intense. C'est surtout l'intensité de ton retour que. J'aimerais voir, revoir. Donc, tu y penses sérieusement. Rassure-moi, tu y penses sérieusement.
Sérieusement, j'y ai pensé à tous les jours depuis que j'ai arrêté. Parce que je pourrais pas attendre 8 ans encore là, avant d'en faire. Tu sais, on n'est pas tous des Pierre Calouellet.
Ouais, mais t'es hein? Charles Dumoulin.
Oui, oui. Mais ce que j'ai vécu avant aussi avec l'apnée. Puis là, je me cherche pas des excuses.
OK, attends un peu. J'aimerais ça ouvrir une parenthèse parce qu'on ouais. En a pas parlé ici. Là. Donc, j'aimerais ça que tu en parles. On va ouvrir ouais. Une parenthèse, après on va revenir à ton rêve de revenir. C'est quoi l'apnée que tu penses?
OK. Bon, ben je vais essayer de faire une histoire courte parce que ça peut être très long. Là.
Prends ton temps.
Ceux qui connaissent l'apnée du sommeil, ça fonctionne par le nombre de fois que tu arrêtes de respirer par heure quand tu dors. Ce que ça fait, c'est que tu n'as jamais un sommeil récupérateur. J'ai eu l'apnée du sommeil toute ma vie. Chez moi, c'est physique. C'est mon clapet, le problème, qui empêche la bouffe mm-hmm. d'aller dans les poumons. C'est cette petite porte-là. Et je suis à 120,6 fois à l'heure. Ça veut dire aux 30 secondes en moyenne, j'arrêtais de respirer.
Puis... Pour une personne normale, une apnée normale, on parle de...
On parle d'une trentaine de fois.
C'est ça, donc c'est...
Ça, c'est la moyenne normale.
Quatre fois plus
ouais.
Que la moyenne.
Oui. Puis je vous dirais, ceux qui sont à 12, là, 12 et moins, ils n'ont pas de machine. Moi, okay. J'ai une machine, puis ma machine, elle pousse 18 de pression toutes mes nuits. Juste pour vous mettre en contexte, là, vous pouvez penser à la puissance d'un aspirateur, là. Pensez-y si vous pouvez, mettons, la mettre à renverse là, pour qu'elle sorte de l'air au lieu de la suction. Puis mettez-vous le tube dans le nez, là, c'est à peu près ça. Alors, je dors avec ça tous les nuits maintenant. Ça a réglé mon problème. J'étais à 0,6 fois à l'heure.
Mm-hmm.
Mais j'ai été toute ma vie avec ça. J'ai perdu, et je répète, j'ai perdu 18 ans de ma vie à cause de l'apnée du sommeil parce que personne n'en parle. Mm-hmm. À cette époque-là, personne n'en parlait.
Même aujourd'hui, c'est difficile de savoir que c'est ça si...
Moi, je te dirais, là, si les médecins... Parce que c'est une personne... La statistique, là, en ce moment, là, c'est à peu près une personne sur quatre au Québec qui souffre d'apnée. On est trois, là. Mettons, tu mettrais une personne ouais. De plus. Moi, je souffre d'apnée.
OK, donc moi, je ne l'ai pas autrement dit.
Non, mais tu peux l'avoir, puis tu le sais peut-être même pas. mais vous comprenez ce que je veux dire, tu sais. Et j'étais sur l'article de la mort il y a 4 ans.
Justement, c'est ça. C'est quoi les conséquences concrètes de ça? C'était quoi les conséquences que ça t'a apporté à toi? Okay. Là, parce que...
je vais le dire comme ça. C'est souvent ce que je dis aux gens. Okay? Tout ce que vous prenez pour acquis dans la vie. Manger. Dormir, évidemment. Aller faire ses courses. Aller à l'épicerie. Mm-hmm. Faire un peu de sport. Jouer avec son fiole. Jouer avec ses enfants. Faire le ménage, conduire, ça ne marche plus. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Je te le dis, Louis, je ne sais pas si je te l'avais déjà dit, JF, mais j'ai déjà passé un mois sans me laver parce que je n'avais pas l'énergie pour le faire. J'étais à ce point-là.
En quelle année, ça?
Il y a 4 ans.
Oh, c'est récent.
Oui. Fait que pour moi, là, aller voir un show de lutte le samedi soir, là, c'était hyper demandant. Parce que là, il fallait que je prenne mon char pour y aller. Qu'est-ce qui me dit pas que je vais pas m'endormir et en écraser un sur le coin du chemin? Ou me tuer moi-même en char? Mm-hmm. Deux, être là-bas, tu veux pas dormir dans la face des autres lutteurs non plus, là. Faut qu'il y ait un certain respect. Puis il faut essayer d'être lucide dans tout ça. Perte de mémoire, je n'ai tout le temps eu toute ma vie. J'avais de la misère, moi, les scripts, là, le gros booking de Burt, là, des fois, là, en arrivant dans le vestiaire, là, puis t'as à peu près 20 lignes. Là. Mm. Hey, c'était dur pour moi de tout retenir. Là. Par chance, Dave était là. Dave, c'est un ring general, qu'on dit, là, dans les termes de lutte. Là. Lui, il se souvient de tout. Lui, là, il a une mémoire phénoménale. Là. Fait que par chance, j'avais lui qui m'aidait. Là.
Principalement, est-ce que tes combats étaient... faisait plus place à l'improvisation à cause de l'apnée ou tu suivais quand même les scripts de A à Z?
Ah, j'y suivais quand même.
Okay.
Je suis sûr des fois que c'est arrivé que j'ai peut-être dérogé pour X raisons puis on me ramenait sur la bonne voie. Là.
Okay.
Mais généralement, ça allait bien, mais à cette époque-là, j'étais jeune.
Ouais.
Fait que tu t'en rends pas compte que t'as ça, l'apnée, jusqu'à temps que ton corps décide que tu t'en rendes compte. Écoute, mes genoux barraient à la fin. J'étais pas capable de marcher straight. Puis ça, c'est un mécanisme de défense qu'on m'a expliqué par un kinésiologue. C'est que ton corps te dit, écoute, t'as pas d'énergie, tu marches pas, mon chum.
Mm-hmm.
C'est pas des farces, là, c'était ça. Fait que, je vous le dis, ça change une vie complètement la minute que tu retrouves ta machine, que t'as une machine. Mm-hmm.
Puis c'est ça, c'est quelque chose qui a influencé, j'imagine, la fin de ta carrière de lutteur.
Ah,
ça
c'est
a
clair.
Eu un impact important là-dessus.
C'est clair. Puis ceux qui écoutent, là, puis qui étaient avec moi dans le vestiaire à cette époque-là, là, ils vont s'en souvenir. Là, souvent, je finissais mes matchs de lutte, puis j'étais frustré dans le vestiaire. Là. Il y a des fois que j'ai même pitché des chaises. Puis ça avait rien à voir avec le lutteur contre qui je luttais, là, ou avec qui je luttais, là. C'était moi, parce que j'étais plus capable de suivre le monde, puis je comprenais pas pourquoi.
Ça, tu savais pas, que c'était l'apnée qui causait tout ça à ce moment-là.
Pas du tout. Puis avant d'avoir mon diagnostic d'apnée, j'ai été 5 ans déclaré dépression majeure. Il était sur le bord de me mettre en dépression chronique, puis être médicamenté pour ça.
Donc, il n'y avait pas de dépression réellement, c'était vraiment l'apnée.
Moi, je voulais ici, dans ma tête, là. Mais le corps ne suivait pas.
Mm-hmm. Ouais.
Puis, je vais vous le dire comment je l'ai découvert, là. Un soir, j'étais à job, puis une chance, je travaillais à STM à cette époque-là. Merci, la STM, pour ça. Ils ont été très patients avec moi. Mais un soir, j'ai dit à mon superviseur immédiat, j'ai dit, écoute, je vais finir ma soirée, là, mais là, ça fait 4-5 ans là, que je suis on and off là, à job, là. Puis qu'on sait pas pourquoi, là, puis tout le temps, dépression majeure, puis on augmente mes pilules, puis ci, puis ça, puis... À un moment donné, il faut que ça arrête. Moi, je veux dans ma tête, mais le corps ne suit pas. Fait que la manière que je m'en suis rendu compte, c'est que je suis en train de servir aux tickets dans le métro un client, un billet. Là, il s'en va. Je m'endors instantané. Le gars, il vient de partir, je viens de le servir, là, puis je m'endors. Il y a un client qui cogne dans la vitre. Là, je me réveille. Je dis, excuse-moi, j'ai eu le réflexe de dire, j'ai tellement mal dormi hier, là, je ne sais pas ce qui se passe, là, mais. Fait que là, ça m'a allumé une lumière, je dis, écoute, d'un coup, c'est mon sommeil le problème. C'est ça qui cause un paquet de problèmes. D'un coup, c'est ça. Fait que le soir même, après avoir dit à mon superviseur, je suis allé voir un psychiatre à l'hôpital Cité de la Santé à Laval, en urgence. Pourquoi? Parce que les psychiatres, c'est ceux qui sont spécialistes des pilules. Mm-hmm. Moi, je pensais aussi que ça pouvait être mes pilules qui me gèlent en permanence. Fait que c'est peut-être ça, là, parce que j'avais des doses élevées d'antidépresseurs, j'avais des pilules pour dormir, puis j'avais des pilules, quelque chose qui était supposé me donner de l'énergie, puis que ça ne marchait pas. En ayant été voir le psychiatre le lendemain, elle sait pas, mais elle m'a peut-être sauvé la vie. Moi, je pense que oui, elle m'a sauvé la vie, là, mais elle sait probablement pas. Là. Ben, j'ai retourné pour voir si elle était là, puis elle n'était pas là. Elle ne travaillait plus là après. J'aurais aimé ça lui dire merci un coup qu'on a découvert c'était quoi. En tout cas, fait qu'il y avait deux feuilles. Il y en avait une sur la dépression, puis une sur l'apnée. Puis c'est des choix de réponse qui équivaut à des pourcentages. Fait que mettons A, 25 %, B, 50, C, 75, D, 100 %. Okay. Puis là, c'est des questions genre, quand tu écoutes la télévision, es-tu prompt à t'endormir? Choisis ton réponse. À 50 % du temps, je m'endors, mettons. Là, après ça, c'est quand tu prends ton auto, as-tu des tendances somnolentes? Tu réponds à ta question. Puis là, il faut que tu sois vraiment honnête là-dedans. Ça, là, c'est pas un diagnostic. C'est pour essayer de t'envoyer dans la bonne direction. Si tu as un score de 10 ou plus, tu es prompt en enfer. Moi, j'avais un score de 18. Carrément, elle se lève, là, elle met le doigt sur la table, là, puis elle dit, ça, là, c'est ça qui cause tous tes problèmes. Parce que là, tu t'en vas pas au public, ça va être trop long. Tu t'en vas au privé. Tu t'arranges avec tes assurances à la job, tu en as des bonnes, là. T'arrangerais avec eux autres, tu t'en vas faire ça là, demain matin. Passe le test, 120,6 fois à l'heure. Wow. L'inhalothérapeute me regarde et dit, t'es venu comment, ça? Ben, je dis, ma mère, elle m'attend dans... Ah, OK, t'as pas pris ton char, là. T'es pas venu en autobus, là. Je dis, non, c'est elle qui conduit. Parce qu'il dit, moi, étant honnête avec toi, là, je sais pas comment tu fais pour être réveillé pendant que je te parle. Puis ça, ça veut dire que tu roules sur l'adrénaline depuis un bon bout. Fait que moi, je te le dis là, si t'as pas ta machine, je te donne 3 semaines que tu passes au fret. ACV, crise cardiaque, nomme-les tout. Puis là, je vous dis ça, là, dans tout ça, là, j'ai eu 12-15 ans de malbouffe parce que, écoute, j'ai pas d'énergie pour en faire de la bouffe. Moi, je m'en commande à la place, bien plus facile. Ben, je fais pas de diabète, je fais pas de cholestérol, je fais rien de ça. On ne dit pas, là. Je suis chanceux, là, dans tout ça. Fait que, moi, je vous le dis, là, si vous avez des doutes sur le sommeil, là, allez-y. Parenthèse, là, faites-vous tester. Parce qu'au Québec, c'est une plaie, l'apnée du sommeil. C'est prédominant ici au Québec comparativement au travers le monde. C'est très, très fort, l'apnée, ici.
Ah, puis n'ayez pas peur. Je pense que même dans le domaine de la lutte, je pense que Stone Cold Steve Austin. Tu sais, il y a des gens plus connus au Québec, style Simon Lacroix, Ginette Renault. puis dans le monde de la lutte, il y a Stone Cold Steve Austin.
Il en faisait?
Oui, ben je pense que c'est machine. Tu me le confirmes, Louis?
Ben là, moi, ouais, c'est ce que j'ai entendu dire.
Bon, ben c'est toi.
Ah ouais, ben tu vois, je savais même pas.
Donc, c'est quand même, n'importe qui peut l'avoir, comme tu disais, une personne sur quatre. Donc, c'est très important si vous avez des difficultés.
Ça n'a rien à voir avec l'embonpoint. Parce que, comme moi, là, c'est physique, là, dans mon cas, là. Fait qu'une personne qui paye 100 livres mouillées, là, pourrait en faire de l'apnée aussi.
C'est quoi, justement, qui peut causer ça, à part, mettons, que ce soit physique?
Souvent, là, ça se passe dans ta gorge.
OK.
C'est la connexion entre l'air qui rentre dans ton nez puis qui s'en va dans ta gorge après, là. T'as, où est-ce que l'aluette, là? T'as une espèce de connexion, là, qui se fait de chair. Puis plus ça va avec le temps, plus cette chair-là va venir se coller sur ta paroi dans le fond de ta gorge. Puis c'est ça qui empêche l'air de passer. Puis soit dit en passant, là, maintenant, l'OSM, l'Organisation mondiale de la santé, déclare que forme de ronflement équivaut à une apnée du sommeil maintenant. Puis je vous invite à aller voir des vidéos là-dessus parce que vous ne croirez pas tout ce que ça peut faire. Ça détruit votre système immunitaire de ne pas bien dormir. Vous avez des problèmes de mémoire. Vous avez des problèmes hormonaux. Vous n'avez pas de libido. De pilosité. Si tu me regardes les jambes, c'est niaiseux. Mon tibia, il n'y en a pas de poêle. Mais mon genou, il est plein, lui. Ça amène des incongruités comme ça. Là. Incongruité. C'est un bon mot.
Ouais. Si je ne suis pas sûr, je réponds oui.
Mon intention était bonne dans ma tête, mais ça m'a sorti. Mais non. Parenthèse, je vous le dis, là. J'ai déjà aidé deux personnes dans ma vie là, pour ça, dont un qui m'a dit « t'as sauvé mon mariage okay? », parce que ça allait vraiment pas bien, lui-là, là, dans sa vie avec sa femme. Je vous le dis, là, allez vous faire checker.
Mm-hmm. Ben, c'est une Christie de bonne parenthèse quand même. Ben, merci d'être aussi ouvert d'esprit d'en parler. Là,
ça doit tellement être un soupir de soulagement quand tu trouves la solution, tu trouves le problème, quand ça fait des années que...
Ça a répondu à toutes les questions que j'ai eues dans ma vie. Oui. Toutes. Tu sais, à 24 ans, tu es censé être dans ton pic physique. Ou tu commences à être dans ton pic physique. Moi, je déclinais à 24 ans. C'est pas normal, là.
Ouais.
C'est pas normal. J'ai jamais eu de problème. Tu sais, JF, dans le ring, j'ai jamais eu de problème à suivre n'importe qui, que ce soit un cruiserweight ou un gars de 400 livres.
Exact.
J'ai jamais eu de problème. Puis je suis pas petit, là. Fait que suivre un cruiserweight, là...
C'est difficile, normalement, pour un gars de ton gabarit.
C'est sûr. Ouais. Moi, j'ai jamais eu de problème. Puis ouais. Même que j'étais capable de matcher leur vitesse, puis j'étais capable d'en faire comme eux autres aussi. Mais à 24 ans, je commençais à avoir de la misère. Puis je me souviens d'un match contre Ian O'Kane, où ce que j'ai eu de la misère à suivre Ian O'Kane.
Ouais.
Puis je dis pas ça pour être méchant envers Ian, là. Pas du tout. Là.
Non, c'est tout un athlète, lui aussi.
Tout un athlète, lui aussi, là.
Oh, oui.
Une brute naturelle, là. Je te parle côté force, là, OK?
Force, puis...
Fils de fermier, d'ailleurs.
Oh, oui. C'est lui, non, pour vrai, il m'impressionne. Là. Vous êtes, point de vue force brute, là, vous êtes les deux les plus impressionnants.
C'est débile. Ouais. Débile, ce gars-là. Lui, il pourrait prendre Mars dans ses bras. Tu te souviens-tu de Mars?
Non. Ben oui. Maintenant
dans
que t'en
dans
parles,
le bon vieux temps, ouais, Andy Bevy.
J'ai cherché un peu, mais
c'est
oui.
C'est sûr qu'il pourrait le prendre puis le pitcher comme il veut, ce gars-là. Puis, pas petit Mars. Je te confirme, là, un genre Yokozuna.
Okay, ouais.
En plus petit un peu que Yokozuna, là, mais genre. Là.
Je vois le genre, ouais.
Puis, c'est ce que je m'en ai dit, non? Puis, j'ai eu un match contre lui à un moment donné que j'ai eu de la misère à le suivre. Puis, je suis revenu dans le vestiaire, j'ai pitché les chaises, là, ce soir-là, là. Parce que j'étais en beau fusil avec moi, là. Sans savoir c'était quoi qui se passait, t'sais. Mais
c'est ça, quand la tête suit, mais que le corps veut plus, c'est pire. Tu sais que tu devrais être capable de faire.
Puis dans ma grande insécurité, ben là, je me suis mis à penser à tous mes fans en foule. À tous les gars, parce que je le sais que je suis important. Je le sais, ça. Mais je voulais pas trop me le laisser savoir non plus. C'est peut-être ça qui m'a aidé aussi à être terre à terre, là. Parce que moi, j'étais un gars qui parlait à tout le monde, puis... J'avais pas de problème avec personne, moi, généralement, là. Je pense que j'ai eu une personne que j'ai eu un problème avec à FCL, je pense, à l'époque, là. Blue Thunder, je pense qu'il s'appelait, là.
OK.
C'est le seul gars que je me suis
pogné
avec.
Une seule personne dans ta carrière au grand complet.
Oh, oui, au grand complet.
Bonne moyenne, là.
Mais c'est quand même une très bonne parenthèse. Il faut que vous fassiez de quoi si ça arrive, mais... Christy, de bonne parenthèse, puis on va revenir à... On va fermer cette parenthèse-là,
si tu
le permets.
Oui, oui.
Le sujet principal, c'était ton retour. Mm-hmm. Puis j'espère maintenant, je veux juste que ton insécurité s'en aille. Pense à au plaisir que tu aurais d'un retour. Ça serait quoi le buzz? Ça serait quoi le premier aspect positif que tu aurais pour un retour dans la lutte professionnelle en tant qu'individu?
Les gens, l'énergie que ça t'apporte là, quand t'es dans le ring, là, c'est une drogue, ça. Mm-hmm. Combien de fois on entend parler des joueurs de football là, que quand ils prennent leur retraite, là, c'est dépression? Ouais. Vous avez entendu parler de ça?
Ben oui.
Oui.
Des vedettes aussi internationales, c'est souvent comme ça aussi. C'est la même chose avec la lutte. Je vous le dis, là, notre paye, là, oui, c'est beau avoir un chèque avec bien des zéros dessus, là. Mais notre paye, c'est pas ça. Là. Notre paye, c'est de voir le monde triper. Tu sais, si je vois que le monde aime m'haïr, parce qu'en réalité, ils t'haïssent pas vraiment, même si t'es le méchant, vont vouloir des autographes, des photos quand même après.
Exact.
On s'entend, là. Ils savent que... Maintenant, ils savent plus que c'est un show qu'avant, là. Mais ils aiment taillir.
Donc, le gars de théâtre et de cinéma prend le dessus.
Exact. Exact. Évidemment. C'est un stage, la lutte. T'es le roi de la montagne, ouais, dans le fond. Parce que quasiment
le
ça.
Le personnage principal.
Ben oui. Ben oui. Tous les yeux sont rivés sur toi. Il y a du monde qui ont payé pour venir te voir. Tu changes leur vie. Tu mets un sourire dans leur visage. T'es fait défouler. C'est ça, ta paye. C'est ça, moi, qui me manque.
Ben, ça te manque beaucoup. C'est comme n'importe quelle passion, parce que là, c'est une passion dans ton cas. C'est une passion même pour ceux qui ont plusieurs zéros sur leur chèque, comme tu dis. Donc, c'est une passion à la base. Si tu es un lutteur, c'est parce que tu es passionné à la base. C'est rare que quelqu'un fait ça de force. Il y en a qui ont le talent pur, qui vont se faire... que quelqu'un découvre, mais c'est très, 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 très rare.
Très rare.
Oui, tout à fait.
Puis souvent, ces gars-là ne continuent pas.
Mais toi, ton retour parfait, comment tu le vois? Tu le vois-tu dans une fédération en particulier? Tu le vois-tu dans un personnage en particulier, le même qu'avant, un autre? Est-ce que tu as pensé déjà à ça, premièrement?
Honnêtement, non. Non, pas encore, parce que faut vraiment que je me concentre sur ma santé pour revenir à ce que j'étais avant.
Oui.
C'est sûr que je reviendrai peut-être pas autant qu'avant. Mm-hmm. Je parle côté santé, là. Mais faut que je me concentre là-dessus, là. C'est ça qui est important, là. De revenir en bonne shape, puis...
Ben, t'es quand même en physique très impressionnant. Quoi, tu...
Ouais, mais il est pas en forme, le gars.
Non?
Non.
Donc, pour être en forme, tu te laisses combien de temps? Parce que là, regarde... Non, mais c'est
quand, quelle date?
Quand, okay, c'est la semaine prochaine, dans un an. Non, mais autrement dit...
Le 30 décembre 2000... Non.
Ouais, c'est ça. Mais, malheureusement, t'as pas un iPhone, donc ça dit pas la bonne date. Mais pour vrai, moi, qu'est-ce que je veux savoir principalement, c'est te remettre en forme pour que tu sois content avant de penser vraiment, OK, là, c'est vrai, mon retour s'en vient. Pour toi, te remettre en forme, ça prend combien de temps?
OK. Faut encore une fois, je ne veux pas trouver des excuses, mais c'est mon problème que je vis. J'ai perdu 18 ans de ma vie à cause de l'apnée. Je peux pas changer tout du jour au lendemain. Je peux pas me revirer sur un 10 sous puis dire, ben demain matin, je vais être en forme, mm-hmm, puis ça va bien aller.
C'est un long processus.
Oui, parce que là, j'ai quasiment 20 ans là, de mauvaises habitudes à casser, mm-hmm, là. Fait que ça, souvent, là, je vais faire un effort là, énorme pendant 2 semaines, puis après ça, ça va arrêter. Parce que c'était comme ça avant. J'ai tout le temps vécu de même. Mm-hmm. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, puis côté monétaire, ça va un petit peu moins bien aussi, même si j'ai une bonne job. Fait que ça aussi, il faut que je règle ça avant. Puis tu sais, moi, je veux pas faire les choses à moitié.
Mais est-ce que, quand tantôt tu disais, OK, tu pratiquais le soccer, du hockey, tu étais bon sauf sur la glace, mais est-ce que tu pratiques un autre sport présentement ou tu penses en pratiquer un autre avant la lutte?
Non, j'en pratique pas présentement. Je sais pas si on peut calculer ça d'un sport, je fais du e-sport, là.
Des jeux vidéo, là, des compétitions.
Ah, EA Sports, c'est in the game? OK, OK.
Ouais, ouais. Ben, ça tombe bien, c'est de la NHL que je joue beaucoup.
OK.
Puis j'étais un... On va dire semi-pro, okay, parce que j'ai pas de contrat là-dessus puis je suis pas payé, mais je suis dans l'élite.
Quelle équipe? Sur PlayStation. Quelle équipe à NHL?
Lou, ben, tu joues sur quel...
Non, mais je veux dire, est-ce que tu fais des tournois avec une équipe d'un NHL en particulier ou c'est...
Non. Team, mon mode, c'est ESHL.
Ah, OK, oui, je comprends. Ouais, okay. Ouais, ouais.
Fait que j'ai juste mon bonhomme à contrôler, mais on est une équipe de 6, puis... Okay. C'est club contre club, puis on fait partie des meilleurs.
Défenseur 99 power slapshot?
Non, ça c'est une autre chose. Ça c'est une autre affaire, ouais, complètement différent, là. Mais je suis très fort là-dessus.
OK.
Là. Je l'ai toujours été aussi, d'ailleurs. Ça a été... les jeux vidéo, ça a été mon évasion pendant des années.
Tu nous as montré tantôt sur ton Android la photo de ton gaming room quand même. Ouais, c'est assez impressionnant avec l'ordinateur, hein, ton setup. C'est vraiment, outre la lutte, une de tes passions majeures là, quand même, le gaming.
Le tech, moi, c'est très important. Tout ce qui est techno, là, C'est bien important. Chez nous, tout est contrôlé par Google. Puis,
OK.
Ouais, je suis dans l'écosystème Android Google.
Lutte québécoise, est-ce que tu suis un peu le produit actuel? Bien, bon, la dernière année, ça a été assez tranquille, mais est-ce que tu as suivi un peu ce qui se passe dans les dernières années?
Je te dirais non. Parce que ça m'a toujours fait des gros pincements au cœur.
Mm-hmm. Ouais.
Ça, auparavant, quand j'ai arrêté de faire de la lutte puis que je retournais voir des shows de lutte, ça me faisait toujours mal par en dedans.
Okay.
Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête. J'arrête d'aller voir parce que ça va me faire mal.
C'est ça, ouais.
Puis c'est encore le cas, mais je te dirais aujourd'hui, j'ai réussi à passer par-dessus ça, là. Puis là, ben avec ma machine, c'est plus tentant. Par contre, la job que j'ai, je travaille la fin de semaine.
Ouais, mais c'est justement un bon qualificatif pour toi. La machine. C'est la machine Chase Ironside. C'est comme ça que je te percevais. C'est comme ça
The
que
Beast.
The Beast Incarnate, mettons, si tu préfères. Là, ben, pour de vrai, t'es pour vrai, là, je suis très sérieux, Louis. Pour vrai, c'est comme... tu sais comment que je trippe solide sur Brock Lesnar.
Oui, oui.
Mais c'est à peu près. Exactement. Pour la lutte québécoise, c'était. Ouais. Non,
mais pour... Disons que je luttais plus que lui.
Exact. Mais dans la lutte québécoise, au moment où Charles luttait, Charles était mon Brock Lesnar. Je tripais solide sur lui, puis je n'étais pas le seul. Il faut que je te raconte une anecdote. C'était à la soirée des champions. Chase, Charles, est intronisé au temple de la renommée de la NCW. Je vais pas lui demander en quelle année, il s'en souvient pas.
2013.
Ah, bon ben voilà. Donc c'est quand même bien, c'est 2013, ça fait quand même assez longtemps. Puis...
Avril.
Puis il y avait une technologie quand même assez différente, là. Donc à présent, les gens... filmaient avec leur iPhone, filmaient avec leur Android, filmaient avec des caméras professionnelles de télévision. Mais nous autres, à l'époque, on avait une caméra mini DV, qui était la technologie de l'heure à ce moment-là, mais ça filmait vraiment bien.
Okay.
Sauf que, sais-tu pourquoi, Louis, on n'a pas d'archives de la présentation de Charles au Temple de la Renommée de la NCW? On en a une, mais filmée par un amateur dans la foule, une chance qui est là. Pourquoi? Parce que le son était tellement fort que ça l'a fait couper la caméra. Le son de la foule a fait couper la caméra, l'image, tout.
Wow.
Donc, on se demandait pourquoi. On l'a amené au réparateur. On dit, ben c'est un moment important. Pourquoi ça l'a lâché? Puis, selon lui, c'était vraiment à cause que le son était trop fort.
Wow.
Donc, le niveau sonore là était démesuré, que ça l'a complètement fait arrêter la caméra.
Ça, c'est quand j'ai fait le dropkick à Yann, hein?
Ah oui.
C'est ça, hein? C'est le pop que j'ai eu là.
C'est incroyable. Oh non, mais...
J'écoute, les frissons me lèvent. J'ai l'impression qu'il y avait 20 000 personnes dans la salle. Puis là-dedans, là, il y en a plein qui ne me connaissaient pas. Là,
mm-hmm. Parce que ça faisait un bout. C'est ça, j'allais dire, c'est plusieurs années après tes derniers combats.
Oui, parce que moi, j'ai arrêté en 2006, à peu près, là. 2006-2007, peut-être. Mettons là, qu'il y a eu 5-6 ans là, okay, avant le 2013 là, des champions, la soirée des champions, puis l'intronisation. Mm-hmm. Il y en a là-dedans qui ne connaissaient
c'est
pas.
C'est clair, ouais.
Oh, mais il y a du monde qui se sont déplacés juste pour toi.
C'est ça, il y en a qui se souvenaient aussi. Là. Oh,
ouais. J'avais un peu de ma famille aussi qui était là, mais c'était pas, pas 100 personnes. Là.
OK, mettons exemple qu'il y avait exemple 10 personnes maximum dans ta famille qui étaient là.
Gros max. Ouais.
Mais il y en a qui étaient des amateurs de la NCW qui ont suivi malgré ton absence, mais il y en a qui sont revenus grâce à ce retour pour une soirée. Puis c'est ça que c'était hallucinant. Moi, pour vrai, dans un show indépendant, avant et après ce moment-là, j'ai jamais entendu une foule aussi forte en émotion.
Mais je savais pas que c'était ça qui avait brisé la caméra.
Ah ben, c'est pour ça que...
Sérieux, là, je savais pas ça.
Oui, donc on a fait analyser. Je suis allé dans un réparateur, je me rappelle pas lequel, mais vraiment professionnel. Puis c'est ça qui...
C'était Mathieu, hein? Je pense qu'il était le caméraman.
Mathieu Lavigne, oui.
Mathieu Lavigne?
Oui.
Ça, Mathieu, je te salue en passant. Puis,
moi aussi.
J'ai absolument rien contre Mathieu, là, on s'entend, là, OK? Mais cette journée-là, maudit que ça m'avait fait chier quand il m'avait dit qu'il n'a pas été capable qu'il est arrivé quatre choses comme. Puis je dis, hey, pourquoi asseoir, man?
Non, c'est
avec le pop que je viens d'avoir, moi, je veux-tu l'avoir, ça, ben, tu ben, penses oui. Chez nous?
OK, tout ce temps-là, tu pensais que c'était le caméraman qui avait appuyé sur un mauvais bouton?
Ben non, mais peut-être la batterie.
Non, ça aurait pu. Donc, ça aurait
non,
pu...
Mathieu fait pas de gaffe.
Non, il est tellement fin.
Non, mais tu sais, des fois, la batterie à l'âge, pour X raison, il aurait pas à avoir plein de choses, là.
Ouais, non, mais c'était vraiment... c'était parce que Mathieu fait ses vérifications, la batterie top-notch, la caméra top-notch. La seule affaire, c'est comme... T'es ben trop populaire, Charles.
c'est ça.
Finalement, c'était toi le problème. Là.
Ouais, c'est ça.
Donc, mais pour vrai, j'aurais aimé ça, revoir ça, mais mes souvenirs sont tellement beaux. Puis j'imagine qu'ils sont tellement beaux dans ta tête que c'est ça qui est important.
D'ailleurs, s'il y en a un qui écoute, là, puis qui l'a, là, je veux l'avoir, s'il vous plaît. Je veux l'avoir, c'est une des choses qui me manque chez nous. Ça.
Ah, que ce soit en qualité très, très basse.
Ah, je veux juste savoir cette soirée-là. Comme.
Puis, c'est... Est-ce que c'est la dernière fois que tu as fait une apparition?
Je pense que oui. Ouais.
Donc, OK, là, on se disait en 2013?
Oui, parce que la plaque, ça a été un... Tu sais, je l'ai chez nous, je la vois tous les jours, ma plaque, puis...
Donc...
Ça aussi, c'est...
Ah, OK, c'est la raison pour laquelle tu te rappelles la date. Ah, ouais, c'est un beau souvenir, mais là, OK, 2013, si je fais des calculs rapides, mettons un an de remise en forme, 2023, après 10 ans, un retour... Il semble que ce serait bien.
Lui, il va avoir une date à soir. Tu pars pas du site si tu me donnes pas de date.
On dirait qu'il veut manager. Il veut être là, en tout cas.
Ah,
il veut acheter ses billets tout de suite là, pour le show.
Ben oui, ça c'est sûr. Ben oui, oui. Non, mais sans te mettre de pression, je pense que... Parce que faut que d'abord que tu penses à toi.
Mm-hmm.
Puis si jamais tu prends la décision de revenir, je serais heureux. Puis beaucoup de personnes qui t'ont aimé dans le passé, puis beaucoup de personnes qui t'ont pas connu, vont apprendre à t'aimer parce que t'es justement ben, comme Louis.
Ouais, exact.
Donc, j'ai tellement parlé de toi, Louis, que même sans t'avoir vu lutter, il a out. Il aimerait ça voir un retour de Chase Ironside.
Vraiment.
Tout à fait.
Je t'enverrai des vidéos. ce temps-là.
Parfait. D'ici à 2023, 2022.
Ben, je sais pas,
non, mais... comme je vous disais, là, je travaille pour numériser. Là, j'ai à peu près 80 cassettes de 6 heures chez nous là, en VHS. Là, à...
Wow.
T'as pas connu ça, le VHS?
Ben, je commençais.
D'ailleurs, Frank Blues, c'était lui qui faisait toutes nos cassettes à l'époque, avec Cadotte aussi, à un moment donné, avec la relève. Anthony aussi.
Anthony Tonin, TNT. Ouais. Donc, on avait toute une équipe de passionnés. Oui, Novocaine. Mais c'est ça que, toutes les époques, je dirais. Mais ton époque à toi, c'est... Qu'est-ce qui m'a marqué en premier lieu? Parce que c'était la première fois que je voyais un groupe de lutteurs, de promoteurs aussi passionnés. Puis après, j'ai vu comme, OK, ça continue. Là. C'est pas seulement un groupe, c'est tous les groupes dans la lutte québécoise qui sont aussi passionnés. Puis c'est rare qu'on voit ça ailleurs. Là. Donc, si tu vas dans différents métiers, c'est comme, OK, c'est pas grand monde qui accepterait, comme tu disais à ton époque, de pas avoir... Ben, tu disais beaucoup de zéros, mais juste des zéros sur un chèque, pas de chèque du tout. Là. Puis... Donc, je trouvais, une des premières choses que j'ai trouvé beau dans la vie, c'est de voir un groupe de passionnés de plusieurs personnes, plusieurs individus, hommes, femmes, le staff, les lutteurs, les promoteurs, se réunir ensemble un samedi soir pour dire « Voici, cher public, qu'est-ce qu'on vous offre qui est notre passion. » J'ai trouvé ça spectaculaire. Puis, moi, je te remercie personnellement parce que, avec toi, comme je le disais au départ, avec Marc-André et David également, vous m'avez fait comme... Puis Bertrand, je ne veux pas l'oublier, Iceman, Frank Blues. Il y en a plusieurs, mais tu fais partie vraiment de mon top des personnes qui m'ont fait accrocher à la lutte québécoise. Puis je ne suis pas le seul, je suis plusieurs. Puis au nom de toutes ces personnes-là, je te remercie d'avoir comme créé un lot de fans qui sont devenus des fans aussi des futures générations de lutteurs en tant que tels, de gérants, de peu importe quoi. Donc, je te remercie parce qu'en partie, tu es responsable que j'ai voulu être dans la lutte québécoise. Donc, quand tu as accepté de faire l'entrevue aujourd'hui, parce que comme on le disait au restaurant avant de venir enregistrer le podcast dans mon studio JFK ici. Donc, j'étais sûr que tu allais refuser. Puis, quand tu as accepté de façon instantanément, parce que tu voulais parler de ta carrière, j'étais surexcité que j'ai appelé Louis. Je ne l'ai pas texté, je l'ai appelé pour dire « Ça marche, je suis excité, Chase Ironside, Charles Dumoulin s'en vient dans mon studio. » Puis pour ça, vraiment, je te remercie.
Pas de sushi.
Ben oui, je sais.
On a essayé les Pokéballs, mais ça n'a pas...
les Pokéballs à 10$ à la cage de mardi non plus. Mais pour vrai, j'ai vraiment apprécié ta présence aujourd'hui au podcast.
Merci. Moi, j'ai vraiment apprécié l'invitation. Puis c'était une première fois pour moi, les podcasts.
Ouais, premier podcast. Ça a bien été, pas trop intimidant.
Merci de m'avoir bien dirigé.
Ben écoute, je te remercie. Merci. Je te remercie moi aussi, Charles. Comme je te disais, je t'ai découvert. J'ai découvert ta carrière là, en même temps que les auditeurs, là, en même temps qu'on faisait l'entrevue. Puis écoute, je suis surexcité moi aussi là, de pouvoir faire cette entrevue-là. Puis écoute, en terminant, si je pouvais te demander, on a parlé d'un possible retour, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut te souhaiter là, dans un avenir rapproché, là, que ce soit en lien avec la lutte professionnelle ou que ce soit en lien avec
la santé.
Peu importe, la santé?
Oui. La santé, c'est tout ce que je demande parce que j'ai une famille extraordinaire, j'ai des amis extraordinaires. Puis la lutte.
Si la santé le permet, ça va venir avec.
Ouais.
C'est vrai, je te remercie.
C'est toujours ça qui est le plus important, d'ailleurs. Là,
exact, exact.
Puis, avant de finir,
oui.
Merci à toi, JF, pour tout ce que tu as fait pour la lutte aussi.
Non, mais là, c'est pas sur moi. Là.
Non, je comprends, mais je tiens à le dire quand même, parce que la lutte indépendante, tu l'as amené au réseau des sports, puis c'est très important, ça. Ça donne la vue aux autres, à ceux qui connaissent pas ça. Qu'il y en a de la lutte au Québec, comme moi, avant de commencer à en faire.
Ouais.
Je ne savais pas qu'il y en avait, de la lutte à Montréal. Fait que c'est bien important, ça. Tu as été une personne très importante, toi aussi, dans la lutte au Québec.
Mais je te remercie. Provenant d'une de mes idoles de la lutte québécoise, quand non, mais c'est vrai. J'apprécie vraiment que tu me le dises. Vraiment, beaucoup. J'apprécie vraiment beaucoup. En passant, tu connais-tu Bob?
Bob?
Bob-bye!
Bob-bye!